Vous êtes sur RTL.
Deux prochaines heures et demie. Bonjour Yves.
Nous sommes au rapport, cher Julien. Merci à toute l'équipe de la matinale et bonne journée à vous. Bonjour à tous. On a toujours su que le mois de mars serait délicat en matière de vaccination. Mais la querelle entre médecins généralistes et pharmaciens ajoute du ridicule à la situation qui n'en a pas besoin. Réaction à 7h40 du directeur général de la santé, Jérôme Salomon. Il est l'invité d'RTL et répondra aux questions d'Alba Ventura. Et Dieu sait si ces questions seront nombreuses. Autre rendez-vous à 8h20 avec l'avocate de la famille de Samuel Paty. Première réaction après les aveux de la collégienne qui reconnaît avoir inventé les propos du professeur lors d'un cours auquel elle n'a jamais participé. La France protège-t-elle suffisamment ses enseignants? Je lui poserai la question. François Langlais nous donnera lui des nouvelles du porte-monnaie de la reine d'Angleterre. Ce n'est pas brillant. Les bijoux de famille se sont-ils dévalués avec le Brexit et la pandémie? Réponse donc aux alentours de 7h35. Nous sommes le mardi 9 mars 2021. Excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Il est 7h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
Quand la pandémie bouleverse le calendrier scolaire et avec lui le moral des lycéens.
Trois quarts d'entre eux redoutent cette année encore un bac au rabais. Résultat d'une grande enquête que vous dévoile ce matin RTL. Nous allons y revenir dès le début de ce journal. Les lits de réanimation quasiment saturés en Ile-de-France. Les hôpitaux ont pour ordre d'annuler 40% de leurs opérations et de faire de la place. La jeune collégienne qui la première avait accusé Samuel Paty n'avait, on le sait désormais, jamais assisté au fameux cours sur les caricatures. Un mensonge qui sidère aujourd'hui ses camarades. Reportage à suivre. Dans ce journal également, la générosité d'un écrivain féru de patrimoine, le gallois Ken Follett, va reverser ses droits d'auteur pour aider à restaurer une cathédrale bretonne. Et puis, PSG-Barcelone, le match retour, c'est demain soir et c'est plutôt très bien parti, nous dira Philippe Sanfourche.
On a hâte. La politique, Olivier Bost.
Nous allons parler de la loi climat, de la ministre de l'écologie, Barbara Pompili, les dernières cartes écolo d'Emmanuel Macron.
Rendez-vous dès la fin du journal, Olivier.
RTL Matin.
Le bac 2021 aura-t-il lieu? Si oui, sous quelle forme? Les épreuves de spécialité qui auraient dû se tenir la semaine prochaine sont d'ores et déjà annulées, mais pour l'instant, le reste est maintenu, et notamment le fameux grand oral prévu en juin. Mais alors, que vaudra ce diplôme? Voilà une question qui inquiète les lycéens. Selon une grande enquête IFOP pour la Maïf et que vous révèle ce matin RTL, 71% d'entre eux craignent cette année un bac dévalorisé, même si la nouvelle réforme et cet encouragement semblent leur convenir, Marie Guerrier.
Ce bac 2021 en mode Covid, pour Tarek et Oussama.
Il est bizarre un peu.
Ouais, voilà, incomplet, on va dire. La valeur qu'il a, on l'a perdu un peu. On se dit, bon, bah, je vais avoir mon bac, mais j'ai rien passé de concret, à part la philo et le grand oral, si c'est maintenu.
Tous les deux sont en spécialité, en SPÉ, sciences économiques et sociales, et SPÉ anglais.
On acquiert beaucoup de connaissances, c'est ça qui est bien avec les spécialités.
Personnellement, je me suis amélioré, vu qu'on a 6 heures de SPÉ plus 2 heures de tronc commun d'anglais, ça veut dire 8 heures par semaine, c'est sûr qu'on peut que devenir plus fort.
Alors évidemment, il y a l'inconnu du grand oral, une épreuve inédite à passer fin juin.
On sait à quoi s'attendre, en gros, mais ça manque un peu de précision.
C'est flou un peu encore.
En fait, on doit mélanger nos deux SPÉ. Nous, c'est sûr, ça sera sur l'environnement, parce qu'en économie, on parle d'environnement et en anglais aussi. On a deux questions à préparer. Avec notre prof d'anglais SPÉ, on va commencer l'acting, comment se tenir et tout ça.
Pour ce qui est du contrôle continu, Tarek et Oussama s'en accommodent très bien.
C'est plus facile, parce que si on travaille régulièrement, bah voilà, nous, on n'est pas stressé. On sait à quoi s'attendre.
Si je rate un contrôle demain au SES, je sais que le prochain, je réviserai encore plus, j'aurai une meilleure note. Comme on sait que c'est un contrôle continu, on maintient nos efforts. À la fin du trimestre, j'aurai telle moyenne, je sais que j'aurai mon bac, et voilà.
Et de conclure, peu importe ce qu'on peut dire de la valeur de leur bac, c'est les études ensuite qui vont compter.
Marie Guerrier. Ils sont désormais sous protection policière. Les deux enseignants accusés d'islamophobie et qui avaient vu leur nom placardé la semaine dernière sur les murs de Sciences Po Grenoble. Des méthodes qui choquent. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, dénonce une logique de délation publique. Deux adolescents grièvement blessés par arme blanche hier à Champigny-sur-Marne dans le Val-de-Marne après une rixe entre deux bandes rivales âgées de 14 et 16 ans. Les deux ados ont été transférés à l'hôpital. Leur pronostic vital est engagé.
Il est 7h03. Priés de libérer des lits, les cliniques et les hôpitaux d'Île-de-France vont devoir annuler 40% de leurs opérations.
Et l'objectif est de faire de la place pour les malades du Covid alors que les services de réanimation sont quasiment saturés. Et c'est une information RTL. Désormais, 80% des nouveaux cas de contamination en Île-de-France sont dus aux variants anglais. Parallèlement, la campagne de vaccination s'intensifie en Ille-et-Vilaine. Les pompiers ont même été appelés en renfort pour vacciner les personnes âgées. au volant d'un camion transformé en cabinet médical roulant. Reportage de Patrice Gabart.
Le Vaximobile, c'est un superbe camion rouge, le camion santé prévention des sapeurs-pompiers d'Ille-et-Vilaine. Le colonel Louis-Marie Daoudal, directeur adjoint du SDIS, en charge de ce dispositif.
C'est un véhicule qui se déplace avec un médecin, un infirmier, et qui vient au plus près des gens leur proposer la vaccination. Et c'est au maire de choisir les gens de sa commune, parce qu'en fait, on est limité à 40 vaccinations.
À Héroudouère, le choix s'est porté sur les plus de 80 ans, qui ne peuvent pas se déplacer ou très difficilement. Alain Buisson, conseiller municipal, en charge justement de leur transport hier, avec d'autres bénévoles.
Mon travail, c'est d'aller chercher les personnes qui vont se faire vacciner. On les amène jusqu'au camion des pompiers pour se faire vacciner. On les garde en observation après la vaccination, et au bout de 15 minutes, on les ramène chez eux. C'est la solution idéale.
Une solution en mode solidarité rurale qui ravit Roger, l'un des 42 vaccinés de la journée, d'autant plus que prévu grâce à une excellente gestion des doses.
Je voulais absolument me faire vacciner, j'ai 88 balais, donc je voulais pas passer à travers. Ça m'a fait gagner 20 jours, plutôt que d'aller à Rennes, je suis chez moi. Non, c'est formidable.
À Héroudouère, la deuxième injection, toujours avec les pompiers, ce sera vers Pâques.
Reportage signé Patrice Gabart. Un nouveau procès pour Dany Leprince, c'est ce que réclame son avocat qui vient de déposer une requête en révision, condamné à la perpétuité pour le massacre de son frère, de sa belle-sœur et de ses deux nièces dans la Sarthe en 1994. Dany Leprince a toujours nié les avoir tués. À l'étranger, ce rebondissement judiciaire au Brésil qui sonne comme un coup de tonnerre.
Le ministre du STF, Edson Fachin, annule les condamnations de Lula.
Un juge de la Cour suprême vient d'annuler les condamnations de l'ex-président Lula, accusé de corruption et emprisonné pendant un an et demi. Une décision qui lui permet d'être candidat l'an prochain à la présidentielle face à l'actuel dirigeant d'extrême droite, Jair Bolsonaro. Et puis les mots de Boris Johnson, 24 heures après l'interview choc du prince Harry et de son épouse Meghan, le premier ministre britannique qui refuse par tradition de commenter les affaires de la famille royale, a néanmoins tenu à exprimer, je cite, sa plus grande admiration pour la reine.
Dans un instant, après les aveux de la jeune adolescente qui avait accusé Samuel Paty et qui a reconnu avoir menti, nous sommes retournés dans le collège où enseignait le professeur. A tout de suite sur RTL.
RTL Matin.
7h07, la suite du journal de Dominique Tenza. Toute son histoire reposait donc sur un mensonge. On l'a appris hier, l'adolescente qui avait la première accusé Samuel Paty n'avait en réalité jamais assisté à son cours.
Il lui aura fallu plusieurs mois pour reconnaître ce que les enquêteurs avaient établi dès le départ, son absence le jour du cours sur les caricatures. Pourtant, c'est bien ce mensonge et le terrible engrenage qui ont mené à la décapitation de l'enseignant. Vincent Serrano, vous êtes retourné dans le collège du professeur à Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines, où la nouvelle de ses aveux vient encore un peu plus renforcer la sidération des élèves.
Ses mains, Lucas, les laisse solidement accrochées aux bretelles de son sac à dos, tête baissée, au moment d'évoquer ce mensonge dont il parle pourtant depuis plusieurs mois avec d'autres élèves.
Ouais, on s'en doutait, on était presque sûr, mais on pouvait pas être sûr à 100% parce qu'elle avait pas assumé. Et du coup, il y avait un petit doute, mais ça aurait pas dû prendre ces conséquences-là juste parce qu'une fille a menti. Je sais que ça va mal finir pour la fille, enfin qu'elle va le regretter quoi. C'est parti trop loin, c'était juste pour un mensonge.
Et à quelques mètres du collège, Christophe pense avant tout à ses deux garçons scolarisés ici. Il oscille entre soulagement et envie d'avancer.
Je sais pas, ça, la colère n'aidera pas de toute façon, quand on voit les conséquences surtout quoi. C'est terrible, c'est attristant, c'est tout ce qu'on peut dire. Parce que maintenant c'est fait, c'est trop tard. Comment faire pour que ça se reproduise? Et ça doit pas se reproduire.
C'est même devenu une priorité pour Laurent Brosse, le maire de Conflans-Sainte-Honorine.
On a quand même eu des élèves à Conflans-Sainte-Honorine qui n'ont pas condamné l'attentat contre Samuel Paty. Et ces enseignants, ils sont aujourd'hui totalement démunis face à ces situations. Ils n'osent parfois même pas convoquer les parents. L'émotion reste encore vive et en même temps, le travail mémorial reste important. Il y a encore plein de choses à faire.
Alors que doit avoir lieu aujourd'hui au collège un vote du conseil d'administration pour ou contre une sculpture en hommage à Samuel Paty au sein de l'établissement.
Reportage signé Vincent Serrano.
Et je vous rappelle que l'avocate de la famille Paty, maître Virginie Leroy, sera avec nous, notre invitée, à 8h20 en direct dans ce studio.
C'est un cadeau inespéré à présent pour les habitants de Dole en Bretagne, ce petit village d'Ille-et-Vilaine qui attendait depuis longtemps de pouvoir réparer sa cathédrale, fleuron de l'architecture gothique. Eh bien, voici une manne inattendue grâce à la générosité de l'écrivain Ken Follett qui a décidé, Alexandre de Saint-Aignan, de reverser l'intégralité des droits d'auteur de son dernier récit.
Et pourtant, Ken Follett n'a jamais mis les pieds à Dole de Bretagne, mais il est tombé amoureux du patrimoine.
Les églises françaises et les autres bâtiments âgés m'ont donné énormément de plaisir. Et c'est à cause de ça que j'ai donné tous les droits d'auteur à la Fondation du patrimoine.
C'est donc la cathédrale de Dole de Bretagne qui va bénéficier de ce pactole. Un geste inespéré pour le père Thierry Simon.
J'en suis très heureux, hein, comme curé de la cathédrale Saint-Sanson. Un geste d'une très grande générosité. On va faire en sorte que ce très bel édifice puisse perdurer et continuer à traverser les siècles.
Aujourd'hui en état de péril, cet édifice du XIIIe siècle nécessite d'importants travaux. Plus de 2 millions d'euros, ça pèse très lourd dans les finances de cette petite commune de 6000 habitants. Alors forcément, pour le maire, Denis Rapinel, c'est une bénédiction.
C'est quelque chose qui tombe du ciel. Nous allons évidemment l'inviter, lui exprimer toute notre gratitude, bien sûr, à lui faire voir de très près ce à quoi il va contribuer au travers de son geste incroyable.
Grâce à la générosité de Ken Follett, les travaux de rénovation de la cathédrale de Dole de Bretagne devraient s'achever en 2024.
Alexandre de Saint-Aignan.
7h11 du football, avec demain le match retour au Parc des Princes. Le PSG reçoit Barcelone en quart de finale de la Ligue des Champions.
Avec une ambiance au beau fixe, côté parisien, vainqueur 4-1 à l'aller, et même si la crainte d'une remontada est forcément dans un coin de la tête, disons-le, Philippe Sanfourche, il y a quelques raisons d'être confiant.
Et tous les voyants semblent au vert, infirmerie quasi vidée, hormis le défenseur Juan Bernat et l'attaquant Moïse Kean. Tout l'effectif est sur pied, à commencer par Neymar, grand absent du match aller après sa blessure aux adducteurs. Il est de retour à l'entraînement, motivé comme jamais pour convaincre le staff technique de le laisser s'asseoir à minima sur le banc des remplaçants demain. Kylian Mbappé affiche lui une forme olympique, tout comme Marco Verratti, le milieu de terrain italien rayonnant lors de ses dernières sorties.
Je me sens très bien, j'ai travaillé beaucoup sur les entraînements. Je suis bien physiquement, c'est la chose plus importante.
Des Parisiens studieux, en mise au vert jusqu'au coup d'envoi, et rassuré par la désignation pour la rencontre d'un arbitre porte-bonheur, l'anglais Anthony Taylor. Sous sa direction, le PSG avait terrassé le Real Madrid 3-0 il y a 2 ans. Victoire et qualification encore la saison passée contre Dortmund et l'Atalanta Bergame. À chaque fois, Monsieur Taylor était au sifflet.
Philippe Sanfourche.
Et il s'agit bien d'une qualification pour les quarts de finale. Qualification pour les quarts de finale.
Suite et fin des 16e de finale de la Coupe de France hier soir, Monaco s'est imposé à Nice 2-0.
Là, on aura un beau PSG Lille. Hein.
Ouais.
Les courses, elles ont lieu à Chantilly.
Avec les pronostics de Dominique Cordier, le 11, Red Dynamite et non partante. Attention, Dominique vous conseille le 2, l'As, le 4, le 12, le 6, le 14 et le 8. La dernière minute, c'est l'As Sandissime.
Red Dynamite qui est non partante.
Red Dynamite.
C'est un joli petit nom. C'était le journal de Dominique Tenza, il est 7h12. La politique tout de suite avec Olivier Bost. Bonjour Olivier.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
C'est parti pour un mois de discussion sur la loi climat à l'Assemblée. Est-ce un moment périlleux pour la ministre de l'écologie Barbara Pompili?
C'est un moment de tension. Et ces moments de tension révèlent les faiblesses et parfois les qualités d'un ministre. Pour cette loi climat, Barbara Pompili est face à 3 défis. Elle doit faire face à la musique habituelle de la gauche, les purs, pour qui ce ne sera jamais assez, je rajoute dedans les ONG. Il y a la droite, pour qui cette loi menace l'économie. Des positions que nous retrouverons quasi telles quelles dans la majorité En Marche Modem, entre ceux qui veulent aller plus loin et ceux qui considèrent que ça va déjà trop loin. Les députés ne seront pas d'accord entre eux, tandis que l'équipe gouvernementale pousse, elle, à la prudence. Si on appliquait toutes les mesures de la Convention citoyenne telles quelles, résume un ministre, c'est gilet jaune à tous les ronds-points. Barbara Pompili a aussi ses propres tiraillements entre ses idéaux et le nécessaire compromis d'Emmanuel Macron.
C'est donc un numéro d'équilibriste pour la ministre ?
C'est ça, d'autant que Barbara Pompili n'a cessé ces dernières semaines d'alimenter la défiance des uns et des autres contre elle. La défiance d'Emmanuel Macron quand elle avait dit l'été dernier qu'elle ne savait pas si elle voterait pour lui en 2022. Une phrase qui résonne étrangement aujourd'hui quand des électeurs de gauche disent qu'ils ne voteront pas Macron face à Le Pen. Barbara Pompili s'est aussi mise à dos une bonne partie du gouvernement. Un ministre lui a conseillé ces derniers temps d'arrêter de faire seul contre tous, de s'isoler. Barbara Pompili enfin est l'une des ministres les moins populaires, relève fort peu aimablement l'un de ses collègues. Numéro 2 du gouvernement quand même, elle a 30 milliards pour faire de l'écologie, on devrait l'entendre du matin au soir. Et rien.
Belle ambiance dans l'équipe. Est-ce que Barbara Pompili pourrait démissionner si elle n'obtenait pas ce qu'elle veut?
Alors, comme Nicolas Hulot, vous voulez dire, oui. La démission fracassante de son prédécesseur, un matin en direct, sans prévenir personne, reste un traumatisme vivace. Depuis, les macronistes ne savent plus comment faire comprendre qu'ils sont écolos. Paradoxalement, cela donne aussi de la force à Barbara Pompili. Bien plus rompue à la politique que son illustre prédécesseur, oui. Elle ne démissionnera pas et elle ne sera pas démissionnée. Emmanuel Macron doit faire comme s'il ne voyait pas les écarts de loyauté de sa ministre de l'écologie. Il n'a pas le choix. C'est sa dernière carte écolo du quinquennat.
Merci beaucoup Olivier Bost. Rendez-vous à 7h40 pour l'entretien d'Alba Ventura qui reçoit ce matin le professeur Jérôme Salomon, directeur général de la santé. Circulation des variants, campagne de vaccination, évolution de la pandémie. Rendez-vous donc dans moins de 30 minutes.
RTL Matin, Yves Calvi.
Il est 7h15, merci d'écouter RTL. Est-ce la guerre entre les médecins et le gouvernement? Entre les médecins et les pharmaciens? Le ton est monté d'un cran autour de la vaccination. Les médecins ne veulent plus commander de doses cette semaine. Ils crient au scandale. La brigade RTL va donc vous expliquer et démêler le vrai du faux dans cette affaire. Bonjour Sophie Orange.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Les médecins sont très énervés. Ils affirment qu'ils sont privés de doses. Vrai ou faux?
Vrai, mais pour une semaine seulement. Car AstraZeneca ne va livrer dans les prochains jours que 280 000 doses. Au moment où les pharmaciens vont commencer leurs injections dans leurs officines, impossible de servir tout le monde. Les médecins ont l'impression d'être des variables d'ajustement dans la campagne vaccinale. Tous les syndicats et même l'ordre des médecins, d'habitude très lisse, sont montés au créneau de façon virulente. On joue au yo-yo, on déshabille Paul pour habiller Jacques, les doses sont détournées.
Ils ont raison de le dire.
Mais c'est sûr que s'il y avait plus de doses, les pharmaciens et les médecins auraient pu passer commande cette semaine, bien mais sûr. Ce n'est pas le cas. Le ministère de la Santé a donc dû faire un choix au détriment des médecins. Et les officines vont récupérer également 67 000 doses non commandées par les médecins, celles-là dans les départements sous tension. Au total, les pharmaciens pourront pratiquer 347 000 injections dans leurs officines dans les prochains jours.
Des rendez-vous vont donc être annulés. Oui. Des plus de 50 ans ne seront pas vaccinés, Sophie?
Oui, car des médecins avaient très certainement organisé leurs rendez-vous sur plusieurs semaines en fonction des doses à venir. Mmh. Mais les vaccinations ne s'arrête pas pour autant. En effet, selon la Direction Générale de la Santé, depuis février, les médecins ont commandé 1 600 000 doses. Celles-là vont être livrées. Pour le moment, 400 000 ont été injectées. Donc, 1 200 000 doses vont être utilisées dans les prochains jours.
Diriez-vous que c'est la guerre entre toutes les professions médicales?
Bon, guerre, c'est un peu fort, hein, évidemment. Plutôt guéguerre, concurrence, même si sur le terrain, les relations sont souvent excellentes entre pharmaciens et médecins. Des pharmaciens, d'un côté, qui poussent depuis des semaines pour vacciner. Des médecins, de l'autre, qui ne se sont pas précipités pour commander des doses, avec derrière un enjeu économique. Le médecin touche plus de 9 euros par injection, le pharmacien moins de 8 euros. Donc plus vous vaccinez, plus vous êtes rémunéré. Mais j'imagine qu'on peut dire que tous ont le même objectif, tout de même, augmenter la couverture vaccinale des Français.
Et puis on rappellera qu'une bonne partie de nos médecins généralistes sont partis tranquillement en vacances de février lors de la première semaine de vaccination.
Pas tous,
une bonne partie. Dans un instant, nous allons revenir sur l'ouverture du procès du policier ayant tué George Floyd, cet Afro-Américain dont la mort en mai 2020 avait entraîné une immense mobilisation et la naissance du mouvement Black Lives Matter. A tout de suite.
RTL Matin, 7h-9h30,
avec Yves Calvi.
Il est 7h20, bonjour Charlotte Recoquillon.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse associée à l'Institut français de géopolitique, journaliste spécialiste des États-Unis et auteur du podcast Stop Killing US. Nous avons besoin de votre analyse pour évoquer ce procès très attendu aux États-Unis, celui de Derek Chauvin, le policier, hein, qui est accusé du meurtre de George Floyd. L'ouverture du procès, on le précise, a été repoussée. Il y a encore un problème sur les chefs d'inculpation, c'est bien ça?
Oui, alors les audiences de recrutement des jurés ont été, de sélection des jurés ont été suspendues hier, puisqu'il y a un juge qui ne se sentait pas qualifié pour, enfin, c'était pas sa juridiction de déterminer si l'accusation de meurtre au troisième degré était de sa compétence. Donc, le temps de régler ce problème juridique, les audiences ont été suspendues.
C'est un test pour la justice américaine, ce procès?
C'est un test effectivement pour la justice américaine et pour voir si l'impunité des policiers qui a été la règle jusqu'à présent a une chance d'évoluer. Tout le monde est attendu, effectivement ce procès est très attendu dans le cadre plus général de la lutte contre les violences policières aux États-Unis.
Charlotte Recoquillon, que s'est-il passé depuis ce meurtre, puisqu'il faut bien parler de meurtre?
Alors, il s'est passé un mouvement social historique. Black Lives Matter est devenu, avec le mouvement social du mois de juin, du mois de juillet, le plus grand mouvement social de l'histoire américaine, du point de vue du nombre de participants, de manifestations, de déploiements sur le territoire américain, etc. Les organisations, parce que Black Lives Matter, c'est un très grand mouvement, une très grande coalition qui abrite beaucoup d'associations, on continue à travailler à toutes les échelles, locales, nationales, et puis sur le plan politique, juridique, social, économique. publique pour faire avancer des programmes en faveur de l'égalité raciale et faire basculer aussi la campagne électorale. Parce qu'il faut rappeler que si Joe Biden a emporté finalement l'élection, c'est quand même en grande partie par la mobilisation des électeurs, par les participants au grand mouvement de justice sociale qu'ont été Black Lives Matter et les socialistes de Bernie Sanders.
Est-ce qu'on voit quoi que ce soit dans la politique qui va être menée par Joe Biden en faveur de la situation de son pays et notamment du mouvement Black Lives Matter et finalement des Noirs américains, des Afro-américains?
Alors, deux choses. Ce qui est sûr, c'est que Joe Biden n'est pas un progressiste hein, dans l'âme. C'est plutôt quelqu'un de très centriste. Mais en même temps, c'est un interlocuteur. Ce qui est déjà une avancée par rapport à ce que Donald Trump était pour le mouvement Black Lives Matter. Donc, il a une oreille pour le mouvement et leurs demandes. Maintenant, on sait déjà qu'il n'est pas du tout aussi progressiste et radical que sont les demandes du mouvement. Et notamment sur la grande revendication de désinvestir la police, defund the police, Joe Biden y est plutôt opposé, puisque lui, il propose des mesures au contraire qui accroîtraient les budgets de la police, y compris avec plus de formation, etc. Mais c'est un peu le contraire de ce que demande le mouvement, qui voudrait qu'on affecte des budgets publics plutôt à l'éducation ou aux programmes sociaux qu'à la police.
Bah, on peut imaginer que les deux soient faits conjointement. Une toute dernière question, je vous demanderai une réponse rapide, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a un examen de conscience dans la police américaine actuellement sur toutes ces questions? Une remise en cause intérieure?
Alors, ça existe à des endroits, mais il y a aussi beaucoup de résistance à cet examen intérieur et à cette introspection. Il y a des syndicats de police et des chefs de la police qui très activement s'organisent pour, au contraire, maintenir un certain nombre de pratiques problématiques.
Merci beaucoup, Charlotte Recoquillon. Bonne journée à vous. Merci à Florian Thiénot, qui était à vos côtés dans le Val-de-Marne pour assurer la liaison technique. Dans un instant, notre point complet sur la météo avec Louis Baudin, que je salue.
Bonjour.
Du rire avec nos grosses têtes et Laurent Ruquier. Et nous avons droit à notre pépite quotidienne, dénichée par Anthony Martin. Bonjour Anthony.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À tout de suite.
Oui, à tout de suite.
Et le matin, Yves Calvi.
7h25, notre pépite musicale, Anthony Martin.
Alors pour commencer, souvenons-nous de cette chanson.
Qu'est-ce qu'il m'arrive aujourd'hui? Je suis amoureux de ma
vie. C'est abominable.
Ah bah c'est un tube, hein, 1974,
oui,
grand succès.
Le texte aussi.
De Richard Anthony, amoureux de ma femme.
Oui.
Vous savez que j'aime bien rendre à César ce qui lui appartient.
Ah oui.
Et bien voici la chanson d'origine, Nessuno mi può giudicare. Elle est née en Italie au festival de San Remo en 1966.
Voilà.
L'interprète s'appelle Caterina Caselli. Original. Ce qu'on a oublié, c'est que 3 mois après sa sortie en 1966, ce morceau italien a immédiatement fait l'objet d'une adaptation en français, sans succès, et pourtant chantée par une star de l'époque, Dalida. La chanson est absolument collector. Elle ne s'appelle pas du tout Amoureux de ma femme, c'est un autre texte. Elle s'appelle Baisse un peu la radio, je n'invente rien. C'est notre pépite du jour. Sur cette mélodie qu'on connaît bien, 8 ans avant Richard Anthony, Dalida chantait Baisse un peu la radio.
7h du matin, à nouveau. Je te dis déjà, je t'en supplie, baisse un peu la radio. On est tous les deux en voiture, mais tu remets ça. Je t'en supplie, baisse un peu la radio. Est-ce que c'est bientôt fini? Est-ce que c'est bientôt fini? Réponds au lieu de siffler, au lieu de chanter les derniers succès. Autant que toi ne l'oublie pas, oui j'ai ma dame. Avec son credo, j'aime Hallyday et les autres aussi, oui, mais j'aimerais bien dormir la nuit, autant que toi ne l'oublie pas, oui, j'aime Hugo Frey, j'aime bien Antoine avec ses oeillets, ses chemises à fleurs, son harmonica et ses cheveux longs à la Dalida.
Voilà, on n'invente rien, c'est magique. C'est magique. Baisse un peu la radio par Dalida. Les paroles de Michel Jourdan valent le détour.
Merci donc. Michel.
Voilà, merci à Michel Jourdan. Un peu plus loin dans le morceau, Dalida chante J'aime Christophe, j'aime Claude François, j'aime Villard et aussi Sheila, j'aime les Beatles, c'est tutti quanti, mais j'aimerais bien dormir la nuit.
C'est le texte.
Oui.
Est-ce que c'est bientôt fini?
Alors je vais vous dire, là vous êtes arrivé à l'asymptote de, des pépites musicales.
Pas.
Il y en a à demain matin.
Demain, oui.
Retour de nos grosses têtes dès 15h30 cet après-midi. On embrasse toutes les grand-mères ce matin.
C'était bien la fête des grand-mères.
Ouais. C'est bizarre parce que j'ai plein de petits-enfants.
Et
personne ne m'a
appelé. Mais si, mais t'as pas entendu sonner.
C'est vrai, combien vous avez de petits-enfants hein?
Trois.
Trois, et aucun vous a appelé?
Non.
Ils sont peut-être pas en âge non plus.
C'est pas ça, ils m'appellent mes mères méchantes, je sais pas pourquoi.
Mes mères méchantes. Quel âge ils ont vos petits-enfants?
Je sais pas.
Ah oh ben alors évidemment. Ça m'intéresse beaucoup aussi.
Je sais pas quel âge ils ont. Il y en a un qui parle pas et qui marche pas. Il y en a un qui marche et qui parle, et il y en a un qui marche, qui parle et...
Mais qui téléphone pas. Qui...
Rendez-vous entre 15h30 et 18h avec Pablo Mira, Gérard Jugnot, François Rollin, Jean-Philippe Janssen, Isabelle Mergaux et Caroline Diamant. Bonjour Louis Bonin.
Bonjour Yves, rebonjour.
Parlez-nous de notre météo, je vous prie.
Oui, qui se rééquilibre un petit peu aujourd'hui. Ah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un peu plus de nuages au nord, un peu plus de soleil au sud, mais globalement encore un temps ensoleillé dans la plupart des régions, mais fini le ciel tout bleu dans la moitié nord, puis fini le ciel très nuageux dans le sud. Donc tout ça se rééquilibre. Alors, il restera quand même un peu plus de nuages circulant près des frontières du nord-est, entre le Nord-Pas-de-Calais et l'Alsace avec là un peu plus de nuages voire quelques gouttes de pluie, peut-être également un peu plus de nuages sur les Pyrénées ou encore du côté des Alpes avec là aussi un risque de quelques averses ou de quelques flocons, ça restera très limité. Ailleurs donc le soleil l'emportera encore avec du temps sec. Et puis côté température, alors comme le ciel s'est dégagé dans le sud, bon, on a des gelées plus fréquentes, hein, jusqu'à moins 7 degrés à Guéret, moins 6 à Romorantin, moins 6 à Vichy, moins 5 à Angers ou encore moins 5 à Rodez. Et cet après-midi, bah, les températures sont là aussi plus homogènes, 8 à 11 degrés au nord comme au sud, c'est à peine de saison, 12 à 15 degrés près de la Méditerranée.
Moins 5 à Rodez, ça me laisse songeur.
Ah.
Merci Louis Bonin, RTL, il est 7h30.
RTL Matin, Yves Calvi.
7h30, le Tout Info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce mardi 9 mars. Bonjour Isabelle.
Bonjour Yves, bonjour à tous. Et ce matin, la direction de Sciences Po Grenoble s'exprime enfin après la campagne lancée contre deux professeurs accusés d'islamophobie. La semaine dernière, des affiches avec leur nom ont été placardées sur la façade de l'école. Ils sont désormais placés sous protection policière. Et c'est bien normal, c'est ce que dit la directrice Sabine Sauruguère.
Ces inscriptions sont des actes qui mettent potentiellement la vie de personnes en danger. Après les affaires Samuel Paty ou Charlie Hebdo, ces deux professeurs méritent protection et de devoir vivre en fait sous une protection si forte est quelque chose qui est difficile mais qui est absolument nécessaire aujourd'hui.
La directrice de Sciences Po Grenoble au micro RTL de Serge Pueyot. Le parquet de Grenoble a ouvert une enquête pour injures publiques et dégradation. En région parisienne, l'histoire se répète. De nouveau, un adolescent de 14 ans se retrouve entre la vie et la mort après une bagarre entre bandes de jeunes. Ça s'est passé hier soir à Champigny, à l'est de la capitale. La victime a été grièvement blessée à l'arme blanche. Un autre ado a été touché. Précision de Julien Chénardy du syndicat Alliance Val-de-Marne.
On est dans le cadre de la guerre de territoire, affrontement entre bandes, assez typique du secteur, particulièrement fréquent. Souvent, c'est avec des battes de baseball, avec des bouts de bois, avec des béquilles, avec n'importe quoi. Puis parfois même, ça va jusqu'à des armes à feu. Il y a beaucoup de non-dits et une omerta énorme dans les cités en Ile-de-France. Et donc, c'est très compliqué de mener une enquête dans ces conditions.
Propos recueillis par Alexandre de Saint-Aignan. Notez que 4 jeunes sont en garde à vue dans cette affaire. 6 ans après le crash d'hélicoptère sur l'émission Dropped de TF1, la société de production ALP est mise en examen pour homicides involontaires. Elle est soupçonnée d'avoir fait des économies sur la sécurité. 10 personnes sont mortes dans l'accident, dont Florence Artaud, la nageuse Camille Muffat et le boxeur Alexis Vatine.
Sur le front du Covid, la pression s'accentue en Ile-de-France.
L'Agence régionale de santé demande aux hôpitaux et aux cliniques de déprogrammer 40% de leurs activités. Un ordre ferme pour augmenter le nombre de lits de réanimation disponibles pour les patients Covid, car le taux d'occupation est actuellement de 86%. Antoine Vieillard-Baron est le chef du service réanimation de l'hôpital Ambroise Paré à Boulogne-Billancourt.
Pour vous donner une comparaison, on est à peu près aujourd'hui à plus de 900 malades Covid en soins critiques en Ile-de-France. Ça correspond au niveau de patients qu'on avait à l'automne dernier, 6 jours avant le pic. On était déjà confinés. On est à peu près certain quand même que les jours et semaines à venir vont être difficiles. Donc on est particulièrement inquiet.
Un propos recueilli par Agathe Landé. Pour échapper à un reconfinement, l'exécutif mise sur la vaccination. Actuellement, près de 4 millions de Français ont reçu au moins une dose. À partir de lundi prochain, les pharmaciens pourront eux aussi vacciner. Ils doivent réserver leur dose cette semaine. Et du coup, les médecins généralistes n'en ont pas. Ils sont furieux et ils réclament la démission du directeur général de la Santé, Jérôme Salomon.
Jérôme Salomon qui est l'invité d'Alba Ventura dans quelques minutes sur RTL.
Nous sommes le 9 mars. C'est le début de l'opération Une jonquille contre le cancer portée par l'Institut Curie. Pour cette 17e édition, le thème c'est la révolution des big data et l'intelligence artificielle, car c'est un immense espoir pour améliorer la recherche mais aussi les traitements. C'est ce qu'explique le docteur Sarah Watson, chercheur à l'Institut Curie.
Cet outil d'intelligence artificielle va être capable de nous dire voilà, cette tumeur vient probablement du côlon ou cette tumeur vient probablement du poumon, et on va pouvoir proposer aux patients un traitement ciblé. Avant, ces patients recevaient une chimiothérapie à large spectre. Or, on sait que dans ces situations-là, le taux de réponse, c'est-à-dire le bénéfice, il est de moins de 20%. Là, par contre, grâce à cet outil, on a eu plus de 80% de réponses. Et c'est grâce à ce type de campagne qu'on peut aboutir à des résultats comme celui-ci.
Le docteur Watson avec Odile Pouget. Pour faire un don, rendez-vous sur unejonquillecontrelecancer.fr ou par SMS, envoyez espoir au 92002. 92002, vous ferez un don de 5 euros.
L'interview du prince Harry et de Meghan Markle chez Oprah Winfrey continue de faire des vagues.
Hein. Le couple princier a notamment affirmé que la famille royale s'était posé des questions sur la couleur du futur enfant de Meghan, qui est métisse. Des accusations de racisme qui pourraient abîmer l'image de Buckingham, mais Oprah a fait savoir que la reine Elisabeth et le prince Philippe n'était pas en cause, et Boris Johnson lui-même s'en est mêlé hier en marge d'une conférence de presse.
J'ai toujours eu la plus grande admiration pour la reine, son rôle unificateur. Je n'ai pas l'habitude de commenter les affaires de la famille royale et je n'ai pas l'intention de commencer aujourd'hui.
Boris Johnson. Au Brésil, un juge de la Cour suprême vient d'annuler toutes les condamnations pour corruption de l'ancien président Lula. Il est rétabli dans ses droits politiques. Autrement dit, dans l'absolu, l'icône de la gauche brésilienne peut affronter Jair Bolsonaro à la présidentielle l'an prochain. Retour en France avec la belle histoire du jour. À Ris-Orangis, dans l'Essonne, deux policiers se sont transformés hier matin en médecins accoucheurs. Ils avaient été appelés en urgence pour une femme enceinte qui faisait un malaise devant la gare RER. En fait, le travail était en cours. Sébastien et Virginie ont dû improviser.
Je me suis rappelée quand j'ai accouché, je l'ai mis comme si c'était moi qui accouchais en fait. Et là, je vois des cheveux, des petits cheveux noirs. Donc je dis oh là. Et de là, elle pousse et on voit la tête qui sort. J'avais préparé une petite couverture et il est arrivé dans mes mains. Il était tout petit.
Il a pleuré de suite. Donc c'est une fille, Myriam.
Et le papa, tout à l'heure, il m'a envoyé des photos du bébé et que tout allait bien. Il est dans sa gigoteuse et la maman va bien. Donc on est content et on est super rassurés en fait.
Voilà Virginie au micro RTL, Dan Le Hénaff, charmant en effet. Le foot, suite et fin des 16e de finale de la Coupe de France. Monaco s'est qualifié sans peine pour les 8e en battant Nice 2-0. L'affiche de ces 8e, les 6 et 7 avril, ce sera le choc PSG Lille, le leader du championnat, donc contre son dauphin.
Il y aura plein de rencontres intéressantes. On se retrouve à 8h40 pour la face cachée de la Une.
Oui, et ce matin, direction New Delhi, Yves, leçon de conduite avec ces femmes qui deviennent chauffeurs de taxi.
Oh, vous m'intriguez. À tout à l'heure. Merci beaucoup Isabelle Choquet et bonjour François Langlais.
Bonjour Yves.
Alors, vous n'avez pas manqué de regarder l'interview d'Harry et Meghan, mais c'est la santé financière de la reine qui vous inquiète ce matin.
Mais oui, vous allez voir qu'au moment où les problèmes familiaux s'accumulent dans le ciel zébré d'éclairs au-dessus de Buckingham Palace, c'est pas la joie non plus en matière financière, la fortune de la reine plonge. Alors, je ne dis qu'une chose, gold save the queen. Non.
Gold save the queen dans un instant, c'est François Langlais.
RTL Matin, Yves Calvi.
Il est 7h38, l'Angléco, avec vous François Langlais.
Bonjour à tous.
Les tuiles se succèdent pour la reine Elisabeth. Après le scandale de l'interview du prince Harry et de son épouse Meghan Markle, voilà que sa fortune dégringole.
Ben oui, c'est l'effet Covid. Le gigantesque domaine de la couronne qui vaut quand même une quinzaine de milliards d'euros. Il appartient en réalité à la nation, mais il est géré par la reine. Et il comprend de très nombreux magasins et centres commerciaux, ou encore le célèbre champ de course d'Abcot, vous savez, avec les chapeaux.
Oui.
Alors, le domaine est notamment propriétaire de la totalité de Regent Street. Vous savez que c'est une prestigieuse artère commerciale du luxe du centre de Londres. Elle fait 2 kilomètres. Il possède également un millier de bâtiments historiques et puis d'innombrables propriétés foncières dans tout le pays. 400 réserves naturelles. Et voilà que les restaurants et magasins 150 sur la seule Regent Street ont été fermés à cause de l'épidémie.
Ben oui.
Les locataires veulent renégocier leur loyer pour le rendre proportionnel à la fréquentation. Bon, inutile de dire que la reine va y perdre. Elle est notamment en bisbille avec la chaîne de fast-food Pizza Hut et Pizza Express.
Mais c'est extraordinaire. Vous appelez ça Pizza Hut, vous, maintenant? Pizza Hut, moi je disais, mais bon. Alors, ça rapporte combien tout cela, mon petit bonhomme?
Eh bien, écoutez, autant révolu de sa splendeur, c'était oui. près de 400 millions d'euros par an, parce que il y a aussi des actifs très rentables, de longues bandes de littoral britannique, par exemple, dont la location a fait l'objet d'une mise aux enchères toute oui. récente pour qu'on y installe des éoliennes géantes.
Mais expliquez-nous, les 400 millions servent à quoi?
Bah, en fait, depuis une réforme qui a été initiée par David Cameron en 2012, l'intégralité des recettes du domaine de la couronne, c'est-à-dire ces 400 millions, est reversée au Trésor britannique, qui en rétrocède 15% à la reine pour ses menus frais. Hein. C'est ce qu'on appelle, ça fait 60 millions d'euros quand même,
oui.
c'est ce qu'on appelle l'allocation royale. Ça sert à payer les centaines de personnes qui travaillent pour la couronne, les déplacements, les frais de réception, et puis les travaux de restauration de Buckingham Palace, la résidence officielle à Londres, qui est en pleine décrépitude. Outre cette allocation, la reine et les membres de la famille royale ont quand même chacun leur fortune privée.
Alors ça représente quoi ?
Bah, y a notamment le fameux château de Balmoral en Écosse, oui. hein, qui avait été acheté par la reine Victoria. Y a l'une des plus belles collections de tableaux au monde, il y a des Vermeer, des Rembrandt, il y a des bijoux. Il y a un grand domaine foncier, celui de Lancaster, qui rapporte de l'argent soumis à l'impôt. Ça représente encore 400 millions environ. C'est beaucoup, mais c'est beaucoup moins que la fortune de l'inventeur de l'aspirateur Dyson ou celle du capitaine d'industrie Richard Branson, vous savez, qui a fondé Virgin.
Bien sûr. Alors le prince Harry dispose lui aussi d'une fortune personnel.
Oui, alors il a rompu avec la famille royale, donc il ne bénéficiera plus de l'allocation royale. Il s'est même engagé à rembourser des travaux qu'il avait fait faire dans sa résidence officielle, le cottage Frogmore. Il y en avait eu pour 3 millions d'euros environ, et il rembourse 20 000 euros par mois.
Oui.
Bon, on ne peut pas dire que ça soit la misère quand même, hein, parce qu'il a hérité de sa mère, Diana, 10 millions, et puis également de sa grand-mère Elisabeth, par anticipation, tout comme son frère. Lui et sa femme Meghan viennent d'acheter une propriété de 13 millions à Santa Barbara, en Californie, et de signer un méga deal avec Netflix pour produire des documentaires et des shows télévisés, selon le quotidien britannique Telegraph.
Bah, on les voit marcher sur la plage avec leurs petits bambins. Ils sont charmants. Merci beaucoup François Langlais. On était très très inquiets de la situation financière de la famille britannique.
Ça va mieux du coup.
Ah bah voilà, là on respire. Merci beaucoup. Et on vous retrouve bien entendu sur le site RTL.fr où on peut podcaster, vous le savez. Il est 7h42. Bonjour Alba Ventura.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
Votre invité ce matin.
Le professeur Jérôme Salomon, le directeur général de la santé. Nous allons revenir bien sûr sur le coup d'accélérateur de la campagne de vaccination et cette guéguerre stupide entre médecins et pharmaciens, et puis sur les déprogrammations prévues dans les hôpitaux d'Île-de-France. Est-ce que cela veut dire que la région parisienne est sous la menace d'un confinement?
A tout de suite avec Jérôme Salomon, directeur général de la santé.
RTL Matin avec Yves Calvi.
Excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin le directeur général de la santé, le professeur Jérôme Salomon.
Bonjour professeur Jérôme Salomon.
Bonjour Alba Ventura.
Alors hier, deux syndicats de médecins et le Conseil de l'Ordre ont piqué une grosse colère et appelé à votre démission. La raison, une note que vous leur avez envoyée dimanche soir à 21h, leur expliquant que compte tenu du faible nombre de doses d'AstraZeneca, ils ne seront pas prioritaires cette semaine, ce sont les pharmacies qui seront servies. Vous allez démissionner ?
Non, je vois cette réaction épidermique de mes confrères comme un signe d'engagement, d'énergie pour la vaccination et je ne peux que m'en féliciter. Ce d'autant que je tiens à les rassurer puisqu'ils ont déjà commandé 800 000 doses pour leurs patients éligibles. Il y en aura 800 000 de plus, donc il y aura 1,6 million de patients à vacciner dans les prochains jours. Et donc si on y arrive, ce sera génial et je me félicite de cet engagement des professionnels de santé, de tous les professionnels de santé, puisqu'après les médecins, vous savez que les Français vont pouvoir se faire vacciner chez leur pharmacien. Mmh. Ils ont déjà cette habitude avec la vaccination contre la grippe. Donc, la mobilisation de l'ensemble des professionnels de santé est indispensable et je la salue pour accélérer cette campagne de vaccination.
Mais ils ont des doses, les médecins ? C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir honorer leur rendez-vous ?
Absolument. Toutes les commandes seront honorées. 800 000 doses ont déjà été livrées. 800 000 doses arrivent et donc on aura 1,6 million de doses à la fin de la semaine.
Donc, vous leur dites déstocker plutôt ?
Absolument. C'est... Allez-y et bravo pour votre engagement.
ça veut dire qu'ils sont mal organisés, cela dit, dans leur rendez-vous ? Il y a des problèmes d'agenda ?
Non, je crois que les Français ont maintenant vraiment compris l'importance de cette campagne. Ils sont de plus en plus désireux d'être vaccinés et nous leur devons la simplicité, la proximité et l'accès facile aux doses de vaccins.
Mais vous nous le dites, il n'y a pas de pénurie
de vaccins. Nous dépendons des livraisons, vous le savez, au fur et à mesure. Nous dépendons notamment des livraisons d'AstraZeneca, qui est le vaccin qui va être disponible en ville. Il arrive dans des quantités de plus en plus importantes à la fin mars et surtout en avril, où nous aurons une intensification de la campagne. Mais dès aujourd'hui, il faut utiliser toutes les doses. Le président de la République a été très clair, et le gouvernement aussi. Nous avons des doses sur le territoire national, nous devons utiliser toutes ces doses, et tous les jours.
Et ce n'est pas tout à fait le cas encore. Ils sont payés, les médecins, pour vacciner?
Oui,
et les pharmaciens?
Tous les professionnels de santé sont payés, et c'est normal, puisque c'est une mobilisation importante de l'ensemble des professionnels. Et nous avons maintenant le devoir, sur l'ensemble du territoire, sur des horaires les plus adaptés aux Français, et surtout à proximité de leur domicile, de leur offrir les vaccinations, pour que tous les patients éligibles, qui, je vous rappelle, sont des patients de plus de 50 ans, les patients qui ont des comorbidités, puissent avoir accès très facilement à la vaccination, partout où ils le souhaitent.
Alors, on va revenir à ça. Je voulais simplement savoir, est-ce qu'il y a des vétérinaires qui demandent à pouvoir vacciner, est-ce qu'on pourrait l'imaginer? Ou des dentistes,
on a énormément ouvert la possibilité de vacciner à l'ensemble des professionnels de santé. Vous savez que nous avons mobilisé des étudiants, nous avons mobilisé des retraités, nous avons mobilisé les infirmières.
Mais là, les vétérinaires le demandent.
On pourrait éventuellement étendre. Vous avez noté aussi que les services de secours se sont mobilisés ce week-end. Et je crois que la mobilisation de tous est utile. Après, il faut simplement que cette vaccination se passe dans les meilleures conditions. Mais je pense que cette énergie, cet enthousiasme est à saluer. Et c'est dans l'intérêt des Français que l'ensemble des professionnels soient mobilisés pour que la campagne vaccinale accélère au maximum.
Alors, vous avez vacciné à tour de bras ce week-end, pour reprendre l'expression du président Macron. Dans certains centres, on a d'ailleurs vacciné hors critères, tous âges confondus, c'était pour ne pas gaspiller. Est-ce que c'est ce qu'il faut faire?
Alors, la priorité, c'est quand même de vacciner les personnes qui sont prioritaires, parce que c'est important. Vous savez qu'il y a encore beaucoup de gens qui attendent, et nous sommes sensibles à cette attente. Il faut la réduire au maximum. D'où cette demande du président de la République d'ouvrir en termes d'horaire, en termes d'accès, en termes de nombre de centres. Et les centres de vaccination ce week-end ont eu beaucoup de succès. Il y a eu des vaccinations sans rendez-vous, il y a eu des vaccinations de personnes qui n'étaient pas inscrites, et tant mieux, puisque ce sont surtout des personnes de plus de 50 ans. Et donc je rappelle quand même que les facteurs de risque de faire des formes graves qui conduisent à être prioritaires pour la vaccination, c'est l'âge et la présence de pathologies.
Mais s'il reste des doses, on vaccine tout le monde.
Il ne faut pas jeter de doses.
Voilà, on ne jette pas de doses. Est-ce que la règle, ça va devenir de vacciner les week-ends, le dimanche?
Alors, la règle, ça notamment va être de venir de vacciner le plus facilement possible, lorsque les horaires conviennent aux Français et à proximité de leur domicile. Donc, on a vu le succès de ces vaccinations sans rendez-vous, on a vu le succès de la vaccination chez le médecin généraliste, le succès qui va arriver dans les prochains jours de la vaccination en officine de pharmacie. Et donc, on tient compte de l'ensemble des succès, c'est comme ça qu'on fait.
Oui, mais le week-end prochain, par exemple.
Alors, le week-end prochain, il y aura effectivement la nécessité de maintenir des centres ouverts. Il y a eu des centres éphémères, comme on dit, c'est-à-dire des centres qui se sont ouverts pour soutenir certaines communes. Il y a des centres constants, pérennes, qui vont s'installer, et on adaptera les horaires aux demandes des personnes qui souhaitent se faire vacciner.
Combien de Français sont vaccinés à ce jour?
Alors, nous avons déjà fait presque 6 millions d'injections, ce qui est quand même considérable, et nous avons déjà maintenant 2 millions de Français qui ont eu leurs deux injections, ce qui est très important, et près de 4 millions qui ont eu la première injection. Mais ce qui est le plus important, c'est que cette vaccination est efficace, puisque les personnes âgées, notamment en EHPAD, ont beaucoup moins maintenant d'effets de cette épidémie de Covid. Il y a beaucoup moins de morts, et c'est une très bonne nouvelle. Il y a beaucoup moins de clusters, ces fameux cas groupés dans les EHPAD. Et il y a probablement beaucoup moins de personnes âgées qui arrivent à l'hôpital, et c'est une excellente nouvelle.
Donc ils sont protégés. Est-ce qu'on en sait plus sur la transmission? On se dit que
oui,
peut-être, quand on est vacciné, on transmet
pas. Les premiers résultats scientifiques sont en faveur, et c'est aussi une très bonne nouvelle, d'une réduction de la transmission chez les personnes vaccinées. Donc petit à petit, on avait des données sur les essais. Maintenant, on a des données en population, et en population importante, sur des millions de personnes à l'étranger, comme en France maintenant. Et ce sont des très bonnes nouvelles. Le vaccin est très efficace.
Rendre la vaccination obligatoire pour les soignants, vous pensez qu'on peut l'envisager?
Alors, d'abord, je voudrais rendre hommage aux soignants aujourd'hui, parce qu'on est un peu plus d'un an de cette pandémie. Vous savez qu'il y a eu 88 000 morts, qu'il y a eu 350 000 personnes hospitalisées, qu'il y a eu des millions de malades. Les soignants ont été extraordinaires, ils sont fatigués, mais ils sont toujours sur le pont. Ils ont peut-être hésité un petit peu au début, mais je vois un engouement. Il y a un enjeu éthique, il y a un enjeu déontologique, mais il y a un enjeu encore plus important pour les soignants, c'est qu'ils sont des exemples pour les Français. Et donc je sens qu'ils sont en train de basculer vers la vaccination, et tant mieux.
Vous allez faire une grande campagne nationale d'information, maintenant que la campagne est bien partie?
Oui, vous avez vu, il y a un spot qui va être lancé sur la vaccination en faveur de l'espoir que donne cette vaccination, de l'espoir qu'on aura dans quelques mois d'être tous vaccinés, de pouvoir reprendre notre vie, que des grands-parents puissent embrasser leurs petits-enfants. Et donc ça sera cette campagne nationale. Il y a aussi un enjeu très local, parce que je pense que les Français ont besoin, dans le Grand Est, en Hauts-de-France, en Île-de-France notamment, où la situation est tendue, d'avoir des enjeux locaux de communication avec leurs propres professionnels, avec ceux qu'ils connaissent et avec leurs élus locaux.
Ça, c'est à partir de quand
C'est déjà en cours, puisqu'il y a déjà des mobilisations. Il y en a eu en Normandie, il y en a eu évidemment, vous l'avez vu ce week-end, dans les Hauts-de-France.
Professeur Jérôme Salomon, aux États-Unis, les autorités sanitaires ont indiqué hier que les personnes vaccinées pouvaient se réunir sans masque. Alors, deux semaines après une vaccination complète, on se dit, waouh, c'est possible ça?
Oui, nous étudions ce point, parce que c'est évidemment, nous aurons besoin de vivre avec des personnes vaccinées et de vivre avec des personnes non vaccinées pendant plusieurs mois. Nous avons déjà des travaux très importants en ce qui concerne les conditions d'accès aux EHPAD, aux établissements des personnes âgées. Il est normal que les personnes vaccinées, petit à petit, et de nouveau des contacts sociaux, puissent participer à des activités collectives, puissent aller voir leur famille. Et donc, ça, c'est aussi un signal d'espoir. Mmh. C'est que lorsque l'on est vacciné, on peut recommencer à prendre un certain nombre d'activités qu'on avait oubliées, à reprendre des activités, tout en étant très attentif au fait que le virus circule activement et qu'il faut évidemment continuer à respecter les mesures barrières.
On va pouvoir... Parce que là, aujourd'hui, ce qu'on nous raconte, c'est que dans les EHPAD, il y a quand même des plexiglas, qu'on ne peut pas se toucher. Enfin, les personnes âgées souffrent énormément.
Bien sûr, nous en tenons compte et nous allons desserrer les contraintes dans tous les établissements sous la responsabilité du directeur d'établissement qui pourront petit à petit reprendre des activités pour les personnes vaccinées.
Et ça, c'est pour quand?
Dans les prochains jours.
Ah, très bien. Professeur, à quel moment pensez-vous que nous aurons une immunité qui nous permettra justement de desserrer les taux? Mais plus largement, j'allais dire, la vaccination massive, c'est pour avril?
La vaccination massive, c'est déjà en cours, hein, puisque je vous ai parlé des 6 millions de personnes qui ont reçu des doses. Mais cette vaccination, évidemment, va s'amplifier, va s'intensifier. Ce qui compte, je pense, et c'est important de le dire, c'est que les personnes fragiles soient vaccinées. Parce que si les personnes fragiles sont vaccinées, qu'elles sont protégées et qu'elles ne font plus de formes graves, on aura déjà passé un cap très important. Oui. Et ensuite, l'immunité collective, c'est probablement 80% de la population. Mais vous savez que nous avons déjà 20% de la population qui a fait la maladie. Donc, il reste encore du chemin à faire. Mais nous allons accélérer encore et nous aurons probablement de très bonnes nouvelles au cours de l'été où l'essentiel de la population adulte pourra avoir accès à la vaccination.
Mais que voulait dire le président Emmanuel Macron lorsqu'il disait tenir 4 à 6 semaines? Est-ce que mi-avril, on vivra un peu mieux?
Alors, ce que voulait dire le président de la République, c'est que nous sommes dans une course contre la montre entre la diffusion des variantes et leurs impacts. Et cette accélération de la campagne vaccinale. Et nous avons une période cruciale qui s'ouvre actuellement, une période effectivement de 6 semaines, où nous sommes dans cette course contre l'épidémie et en accélérant en même temps la vaccination et en demandant aux Français la mobilisation maximale pour passer cette période difficile, cette période délicate. De 6 semaines entre cette intensification de la circulation des variantes que l'on observe dans les Hauts-de-France, que l'on observe en Île-de-France notamment, la présence de la variante sud-africaine dans le Grand Est, en Moselle. Tous ces combats doivent être gagnés si l'on veut passer à une autre étape qui est l'étape de l'intensification vaccinale et de la victoire sur le virus progressivement.
Mais 6 semaines, ça passe ou ça casse ou c'est 6 semaines de tension?
C'est 6 semaines de tension, c'est 6 semaines de mobilisation maximale de tout nos concitoyens, parce que chaque personne compte, chaque comportement de protection, de prévention, de promotion, d'aller vers la vaccination compte. Et par ailleurs, nous avons toutes les mesures de freinage qui sont déjà existantes, que vous connaissez, le couvre-feu bien entendu, la fermeture de certaines activités qui sont douloureuses pour leurs propriétaires, mais des fermetures qui ont un impact. Tout ça a un impact et on a vu d'ailleurs que nous n'avons pas d'explosion épidémique, nous avons une très forte tension, notamment dans les Hauts-de-France, notamment en Île-de-France, qui est probablement la région que l'on surveille le plus.
Alors.
Mais nous tenons parce qu'il y a une très forte mobilisation de nos concitoyens qu'il faut vraiment saluer.
Justement, l'Agence régionale de santé d'Île-de-France a annoncé la déprogrammation de 40% des opérations en région parisienne. Est-ce que vous vous posez la question d'un confinement en Île-de-France?
Alors déjà, ce que veut dire la déprogrammation, c'est que nous mobilisons l'ensemble des lits disponibles, l'ensemble des personnels disponibles, parce qu'on parle souvent de lits, mais devant un lit, il y a une infirmière, il y a une aide-soignante, il y a des médecins, et c'est très important d'armer ces lits avec le personnel compétent. L'ARS Île-de-France est en train de mobiliser ce parc supplémentaire de lits pour répondre à une tension hospitalière qui est importante, en particulier en réanimation, et donc nous faisons tout pour accueillir l'ensemble des malades graves à l'hôpital en Île-de-France.
Et vous vous posez la question d'un confinement de l'Île-de-France?
Le confinement de l'Île-de-France n'est pas d'actualité parce que cette mesure de dernier recours serait proposée au gouvernement et au chef de l'État si nous avions l'impression que l'hôpital ne pouvait pas tenir et que nous étions en face d'un risque majeur de ne pouvoir accueillir les malades graves à l'hôpital.
Donc nous sommes en saturation, mais nous tenons.
Nous sommes en très forte tension. Nous libérons des lits, nous libérons beaucoup de lits, des centaines de lits. Et nous suivons la situation jour après jour.
Merci beaucoup, professeur Jérôme Salomon.
Merci beaucoup à vous.
Pour nos généralistes qui boudent, toutes les commandes seront honorées. 1 600 000 vaccins dès la semaine prochaine, vient de nous dire Jérôme Salomon, qui confirme ces chiffres. 6 millions d'injections effectives ont déjà eu lieu, dont 2 millions de secondes doses. La vaccination qui limite la transmission, semble-t-il. Et pour qualifier la situation, nous sommes sous très forte tension, mais pas d'explosion épidémique. Merci infiniment à l'un et à l'autre. L'intégralité de l'entretien, comme chaque jour, est à retrouver sur le site rtl.fr. Et dans un instant, Cyprien surf avec une petite phrase tweetée par Anne Hidalgo.
Bonne journée à vous.
Bonne journée.
RTL Matin,
le surf de l'info.
Cyprien Cini.
7h57, mon bon Cyprien. Vous surfez avec le couvre-feu à 18h.
Oui, mais alors pas n'importe où.
Ah
le
bon.
Couvre-feu à 18h.
Paris.
Parce que la France entière est sous couvre-feu à 18h, mais alors à Paris plus qu'ailleurs. C'est intenable. C'est pas moi qui le dis, c'est Anne Hidalgo sur Inter. Bah ça suffit, à Paris, c'est pas possible.
Quand on regarde les horaires dans notre grande métropole, on voit bien qu'à 18h, c'est quand même pas le moment où, en général, on a complètement fini sa journée de travail.
Bah oui, on bosse encore à Paris à 18h. C'est pas comme ces feignasses de province, là, c'est bien connu. Eux, à 18h, terminé depuis des blombes la journée de boulot, ils se tournent les pouces ou...
Alors, collègues, on a fait cette partie de boule de 3 à 9 mètres et les pieds dans le rond, hein, surtout. Vas-y, bébé. Quand reviennent les beaux jours...
Oui, enfin,
les placés,
tout le monde sait ça, ils jouent au boule et puis elles continuent la merde Paris au cas où, quoi.
À 18h, on est en milieu d'après-midi à Paris. Hein.
Bah évidemment, mais alors qu'en province, où l'on se déplace encore en calèche ou en Renault Fuego, à 18h, même sous couvre-feu... Mais oui, tout est fermé, même sans couvre-feu. D'ailleurs, RTL, à 18h, on a un jingle spécial province, évidemment.
Il est 18h.
Faites de beaux rêves fleuris. À demain.
Et bien sûr, en province, à 18h, c'est...
Un suppôt et au lit.
Un suppôt et au lit, alors qu'à Paris... La vie bat son plein, on est dans le jus, on est en effectif à 2000 à l'heure, on prend le goûter à 18h, non. Elle a raison, Anne Hidalgo.
Disons les choses telles qu'elles sont.
Oui, vas-y, Anne, ouais, disons les choses telles qu'elles sont.
On commence un peu plus tard le matin et évidemment, on finit un petit peu plus tard le soir. Donc, je pense qu'il faudrait adapter.
Adaptons. C'est vrai qu'en province, les gens sont obligés de commencer plus tôt pour aller traire les vaches, nourrir les animaux, chercher du bois pour se chauffer. Puis bon, en plus, à Paris...
D'abord, vous voyez bien les parents qui ont des enfants à récupérer à l'école, en crèche, les difficultés que ça pose.
Bah oui, en province, oui. Ils bossent pas, ils ont le temps. Puis de toute façon, il n'y a même pas d'école et de crèche en province. Alors, c'est vrai que ça dérange personne, là-bas, le couvre-feu à 18h. Non, adaptons. Hein. Et sinon, niveau sondage pour la présidentielle, elle en est où, la maire de Paris?
Quant à Anne Hidalgo, c'est la douche froide, 6, ou au mieux... 7% des intentions de vote.
Oui, bon, va falloir régler ce problème de fuseau horaire pour commencer, puis peut-être que ça ira mieux après.
Hein. Merci beaucoup, on vous retrouve à 18h.
Absolument, avec Thomas Soto, avant d'aller se coucher.
C'est une bonne idée, oui, absolument. Louis Baudin, notre météo, merci Cyprien.
Oui, le retour d'un ciel un petit peu plus nuageux dans la moitié nord, infini le ciel tout bleu, quelques passages nuageux un peu plus denses près des frontières du nord et du nord-est, avec quelques gouttes de pluie possibles entre les Ardennes et l'Alsace. Dans la moitié sud, c'est l'inverse, avec un temps qui sera plus ensoleillé que ces derniers jours. Il restera quelques nuages sur les Pyrénées ou encore du côté des Alpes, avec là aussi un petit risque d'averse sous forme de pluie ou de quelques flocons en montagne, ça restera très limité. Puis les températures, encore des gelées très fréquentes ce matin, notamment dans le centre ou encore dans le nord-est, et cet après-midi 8 à 11 degrés au nord comme au sud, des températures plus homogènes, jusqu'à 15 degrés parfois près de la Méditerranée.
Merci beaucoup Louis Baudin, merci à vous qui écoutez RTL, il est 8h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, arrose sur la pub dans nos boîtes aux lettres.
La loi climat examinée en ce moment à l'Assemblée prévoit d'interdire la distribution des prospectus. Des milliers d'emplois sont menacés. Le bac, une nouvelle fois chamboulé par le virus. Faut-il craindre un examen au rabais? Et puis la surprise Lula au Brésil. Les condamnations de l'ancien président sont annulées. Il peut se présenter l'an prochain à la présidentielle.
RTL Matin.
Ils encombrent nos boîtes aux lettres jusqu'à noyer parfois notre courrier. Ce sont les prospectus qui vivent peut-être leurs dernières heures en ce moment à l'Assemblée. La loi climat examinée en commission par les députés prévoit d'interdire la distribution de cette publicité envahissante. C'est l'article 9. Mais derrière l'arbre écologique se cache une forêt d'emplois menacée de disparition. Adèle Albano est la directrice de Mediapost, l'une des sociétés en charge de la distribution.
Fin de prospectus dans les boîtes aux lettres, ça veut dire tout simplement que les 10 000 emplois concernés chez Mediapost sont en péril. Ce sont des emplois disséminés sur l'ensemble du territoire, qui qui sont destinés à des mamans seules qui élèvent leurs enfants, à des jeunes retraités qui ont besoin d'un complément de revenus, à des étudiants. Ce sont tous des emplois en CDI. Pour vous donner quelques exemples, ça représente plus de 330 emplois dans le Pas-de-Calais, plus de 230 emplois en Isère ou plus de 220 emplois en Gironde. Si l'article 9 passe, ils sont totalement menacés s'il y a fin des prospectus.
Bonjour Armel Lévy.
Bonjour.
Je parlais de publicité envahissante il y a une minute. On a une idée de la quantité de papier que ça représente d'abord ?
Oui, on reçoit dans nos boîtes aux lettres jusqu'à 40 kilos de catalogues par personne et par an. Mais on ne les lit pas tous, on en lit seulement 13%. Le reste part à la poubelle, donc ce n'est pas vraiment écologique.
Et contrairement aux clichés, ça n'embête pas tout le monde ?
Ah non, ça embête en fait un foyer sur 4. Aujourd'hui, sur les 28 millions de boîtes aux lettres du pays, 7 millions affichent un autocollant stop pub. En réalité, la plupart des consommateurs en raffolent. Ils guettent l'arrivée des catalogues pour dénicher les coupons de réduction, les bons d'achat, les promotions et donc les bonnes affaires, surtout en cette période de crise.
Et cette pub, évidemment, c'est une manne pour les grandes surfaces.
Oui, les courriers publicitaires génèrent entre 5 et 15% de trafic dans les magasins et un chiffre d'affaires additionnel en moyenne de 13%. Donc pour les enseignes, c'est un bon retour sur investissement.
Armel Lévy.
Il est 8h03, on le sait aujourd'hui, c'est donc un terrible engrenage qui a conduit à la mort de Samuel Paty.
La collégienne qui l'accusait d'avoir choqué la classe en montrant des caricatures de Charlie Hebdo a reconnu avoir menti, elle n'était pas présente en cours ce jour-là. Son père avait lancé dans la foulée une campagne de menaces contre l'enseignant sur les réseaux sociaux, lui étant en détention provisoire. La jeune fille, elle, se morfond d'après son avocat, Maître Mbeko Tabula.
Elle se sent triste, honteuse, tout ça c'est quelque chose qu'elle vit difficilement. Imaginez bien, hein. On parle d'une adolescente de 13 ans, on l'accuse d'être responsable et coupable de la mort du regretté Monsieur Paty. C'est une pression incroyable. Elle a conscience de la gravité de son comportement, elle a conscience de la gravité de ce mensonge. Elle sait qu'elle va rendre des comptes à la justice, elle est prête.
Elle est prête, dit son avocat. On entendra tout à l'heure sur RTL l'avocate de la famille de Samuel Paty. Bonjour Thomas Proutot.
Bonjour.
Rappelons avec vous cet engrenage qui a conduit à l'assassinat du professeur de 47 ans.
Eh bien, tout commence le mardi 6 octobre dernier à 10h30. Samuel Paty dispense à la 4e 4 son cours sur la liberté d'expression. Être ou ne pas être Charlie. La collégienne n'est pas en classe, absente pour maladie. Le professeur d'histoire prévient alors qu'il va montrer une image trash, en l'occurrence une caricature de Mahomet nu, et propose à ceux qui pourraient être choqués de se cacher les yeux. Face à la polémique, il assurera ensuite n'avoir jamais spécifié les élèves musulmans. Le lendemain matin, sans aucun rapport avec le cours de la veille, la directrice exclut pour 2 jours la collégienne qui a multiplié les absences et les incidents avec les profs. Mais de retour chez elle, la jeune fille affirme qu'elle est exclue à cause de Samuel Paty, parce qu'elle se serait opposée à la discrimination des élèves musulmans lors du cours sur les caricatures. Un tissu de mensonges cru par son père, quand bien même sa mère avait signé le billet d'absence du mardi. Brahim C poste alors 2 vidéos sur Internet où il appelle à l'exclusion du prof traité de voyou. Il livre le nom du collège et celui de l'enseignant. La mécanique infernale est enclenchée, plus rien ne l'arrêtera.
Thomas Proutot.
Vous l'évoquiez il y a quelques instants, Jérôme. À 8h20, notre invité sera donc Maître Virginie Leroy, l'avocate de la famille de Samuel Paty.
Une nouvelle bagarre entre bandes rivales hier soir en Ile-de-France. Une quinzaine de jeunes se sont affrontés dans le centre-ville de Champigny-sur-Marne. 2 adolescents sont grièvement blessés. 4 mineurs ont été placés en garde à vue.
Jérôme Salomon, directeur général de la Santé, vient de répondre à la colère des médecins sur RTL.
Les médecins qui ont appris dimanche soir que les pharmaciens seraient prioritaires cette semaine sur les vaccins AstraZeneca. Jérôme Salomon se veut rassurant. Il y aura 1,6 million de personnes à vacciner dans les prochains jours et toutes les commandes seront honorées, dit-il. Quant à la vaccination, elle commence à faire ses preuves, d'après lui, et permet d'envisager de desserrer l'étau dans les EHPAD dans les prochains jours, précise Jérôme Salomon. Quant à l'hypothèse d'un confinement en Ile-de-France, il n'est pas d'actualité. Et en cette période où les personnes âgées sont encore plus isolées et où les jeunes galèrent pour trouver des petits boulots, une plateforme se propose de les mettre en relation. Le service s'appelle Allo Louis. Alors si vous avez besoin d'un petit coup de main ou alors de mettre un peu de beurre dans les épinards, c'est bien pratique. Et en plus, comme on dit, ça crée des liens, Juliette Jay.
Oui, Pauline a 19 ans, elle est étudiante en école de commerce et elle effectue sa première mission chez Raymond, 95 ans.
Dans le salon du coup ?
Elle monte sur l'escabeau pour accrocher le rideau à 2 anneaux de la tringle.
Je n'avais personne pour le faire puisque je ne peux pas monter sur l'échelle
Et en plus, la jeune fille est grande, alors comme ça, c'est pratique.
Deuxième activité, plier les draps.
C'est des choses qu'on ne peut plus faire quand on est âgé. Voilà.
Raymonde a découvert la start-up Allo Louis dans le journal et elle a aussitôt téléphoné.
Je ne trouvais pas beaucoup de personnes pour passer une heure. Je suis ravie de pouvoir bavarder un petit peu avec de la jeunesse.
Plaisir partagé pour Pauline, une Louise, comme on les appelle dans l'entreprise.
L'aspect lien intergénérationnel, je trouvais que c'était vraiment un concept sympa. Donc voilà, je me suis lancée.
Un job payé 10 euros de l'heure, Alexandre Durand a cofondé Allo Louis il y a un an et demi en pensant à ses grands-parents.
On se rendait compte, tout comme Raymond, qu'à chaque fois qu'on leur rend visite, il y a des petites choses qui nous prennent quelques minutes mais qui peuvent, en s'accumulant, générer un vrai handicap dans la vie du quotidien.
Dernière mission de la journée, sortir faire les courses. Raymond attrape sa canne d'une main et puis de l'autre, le bras de Pauline.
Reportage signé Juliette Jay.
Dans un instant, la peur du bac au rabais pour les futurs bacheliers. Ils nous font le même sketch chaque année, remarquez. À tout de suite.
RTL Matin.
8h09, la suite du journal de Jérôme Florin. 71% des lycéens se diraient plutôt optimistes sur leur avenir.
C'est le résultat d'une enquête IFOP pour la Maïf que vous dévoile RTL et Le Monde. Mm-hmm. Les futurs étudiants qui ont jusqu'à jeudi pour formuler leurs vœux sur Parcoursup sont très majoritairement satisfaits par les spécialités qu'ils ont choisies pour le bac. Mais, vous le savez, la pandémie a tout chamboulé. Entre cours à distance et épreuves annulées, beaucoup craignent maintenant un bac au rabais. On fait le point avec la brigade RTL. Bonjour Marie Guerrier.
Bonjour.
Alors d'abord Marie, rappelez-nous, comment ça aurait dû se passer s'il n'y avait pas eu cette fichue crise sanitaire?
Alors le principe du nouveau bac, c'est qu'il n'y a plus de filière, mais un parcours personnalisé avec un tronc commun et des spécialités que les élèves choisissent. Le contrôle continu compte désormais dans la note finale du bac. Et pour ce qui est de l'examen, il y a le français en première et 4 épreuves en terminale. 2 spécialités, la philo et un grand oral. Mais voilà, avec l'épidémie, l'année dernière en première, les élèves n'ont pas passé l'examen de français. C'est la moyenne des notes obtenues au fil de l'année qui a été retenue. Et puis cette année, rebelote, les épreuves de spécialité qui auraient dû être passées la semaine prochaine, elles sont annulées, remplacées par les notes de l'année. Pour l'instant, la philo et le grand oral sont maintenus en juin. Mais quoi qu'il en soit, le bac 2021 sera essentiellement basé sur le contrôle continu.
Et il y a tout un débat autour du contrôle continu qui ne serait pas égalitaire. Comment être sûr que les notes sont justes?
On entend ici tel prof note trop dur, ou là les notes sont gonflées. Le ministère de l'Éducation nationale a élaboré un guide de l'évaluation pour donner un cadre à la notation. 63 pages qui passent en revue toutes les matières. Un minimum de 3 évaluations par trimestre et par matière est recommandée, notamment en utilisant des sujets type bac pour obtenir une moyenne robuste, reflet des compétences et connaissances de l'élève. Mais il y a une crainte, le contrôle continu va renforcer les inégalités en fonction des lycées, disent 58% des personnes interrogées par l'IFOP pour la Maïf, mais 76% estiment aussi que le contrôle continu est plus juste que la note obtenue sur une épreuve ponctuelle.
Et l'autre crainte, on le disait, elle est sur la valeur de ce bac. On écoute ces deux lycéens de Nanterre.
Bizarre un peu.
Ouais, voilà, incomplet, on va dire. La valeur qu'il a, on l'a perdu un peu. On se dit, je vais avoir mon bac, mais j'ai rien passé de concret, à part la philo et le grand oral, si c'est maintenu.
Alors, qu'est-ce qu'on leur répond?
C'est vrai qu'on a du mal à situer ce bac 2021 qui, vous l'avez compris, n'est pas encore vraiment le bac de la réforme. Les conditions sont difficiles. 64% des élèves disent que les cours à distance sont moins efficaces que le présentiel. Mais bon, les bases de la réforme sont quand même posées. Le contrôle continu pour obliger les élèves à travailler régulièrement, les spécialités pour approfondir les connaissances et la préparation du grand oral pour développer de nouvelles compétences. 67% des lycéens estiment que ce nouveau bac est un avantage pour la suite de leurs études, mais ça, il va falloir encore un peu de temps pour vraiment évaluer son efficacité.
La brigade RTL signée Marie Guerrier.
8h12, à l'étranger, ce coup de théâtre au Brésil.
L'ancien président, longtemps héros de la gauche, Lula, a vu annuler par un juge de la Cour suprême toutes ses condamnations pour corruption. L'homme qui a dirigé le pays entre 2003 et 2010 n'est plus en prison depuis plus d'un an et il pourrait revenir par la grande porte puisque Lula est rétabli dans ses droits politiques. Bonjour Christophe Decroix.
Bonjour.
Ça veut dire qu'il peut se présenter l'an prochain à la présidentielle face à Jair Bolsonaro.
Oui, il aura 76 ans, un peu moins que Joe Biden. Et ce serait évidemment un choc dans ce pays profondément divisé. L'icône de la gauche brésilienne face à Bolsonaro, ce président d'extrême droite, qui nie toujours les ravages du Covid. Déjà en 2018, quand il avait été incarcéré, Lula était donné favori de la présidentielle. L'annulation des condamnations lui permet aujourd'hui de revenir, s'il le veut, face à Jair Bolsonaro. Et cette fois-ci encore, il apparaît comme le seul à pouvoir le battre. Toute la procédure judiciaire à son encontre, pour des pots de vin, avait été discréditée. L'impact l'impartialité des magistrats avait déjà été mise en doute par des échanges de messages. Et le juge qui l'avait envoyé en prison, le juge Moreau, était devenu ensuite le ministre de la Justice de Bolsonaro, ce qui interrogeait évidemment sur ses motivations. Cette fois-ci, un magistrat estime que le tribunal qui l'avait envoyé derrière les barreaux n'avait pas la compétence pour le faire. Lula n'est donc pas blanchi, il devra être rejugé, à moins que la Cour suprême ne casse cette dernière décision. En attendant, effectivement, l'ex-dirigeant du Parti des Travailleurs peut briguer un troisième mandat, mais avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête.
Le retour de Lula, merci beaucoup Christophe Decroix.
Et c'était le journal de Jérôme Florin, il est 8h13. Dans un instant, Jean-Mathieu Pernin, que nous allons retrouver, qui va démonter une nouvelle fake news concernant le vaccin AstraZeneca.
Yves Calvi, RTL Matin, 7h-9h30.
8h16, traquons les intox dans la bonne humeur. Avec vous, Jean-Mathieu Pernin, bonjour.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, non, l'Autriche ne vient pas d'interdire le vaccin AstraZeneca.
Et oui, hier à 15h12, une dépêche de l'agence France Presse nous apprend que l'Autriche suspend un lot de vaccins AstraZeneca suite au décès d'une infirmière qui venait de recevoir une injection. Alors sur les réseaux sociaux, la nouvelle se diffuse. Une heure plus tard, les premiers messages annonçant l'arrêt du vaccin AstraZeneca circulent. Voilà, alors on nous disait une heure avant, une dépêche parlait d'un lot. Certains interprètent ça comme un arrêt total. Alors certains seraient-ils mal intentionnés?
Ah oui.
Ça serait étonnant. Dimanche soir, en effet, une femme de 49 ans qui avait reçu une dose d'AstraZeneca à l'hôpital régional de Zwettel dans la Basse-Autriche est morte quelques jours plus tard des suites de graves troubles de coagulation, indiquait l'Office fédéral pour la sécurité des soins de santé dans un communiqué. Une collègue de cette infirmière a également eu des symptômes, mais en voie de guérison. Si le lot incriminé de vaccins est bien suspendu, l'Autriche n'a pas mis entre parenthèses ou arrêté le vaccin AstraZeneca et comme beaucoup de pays européens, attend les doses promises pour vacciner massivement.
Alors ce genre d'intox concernant l'arrêt des vaccins sont très récurrents.
Ah bah oui, on pourrait même dire au laboratoire, si ton vaccin n'a pas été victime de rumeurs de suspension, il a raté sa vie. Ainsi, en janvier, c'était le cas du vaccin Moderna qui subissait ce genre d'intox. Des messages prétendaient que la Californie arrêtait de l'utiliser après deux morts, ce qui était faux. Même chose qu'en Autriche, il s'agissait d'un lot mis de côté afin d'observer s'il était en cause dans le décès de ces deux patients avant d'être de nouveau autorisé. Quand Moderna a été lavé de tout soupçon, même chose pour Pfizer, oui. Début janvier, 33 personnes décédées en Norvège. Certains messages affirment que le gouvernement stoppe alors les injections. C'est faux, le vaccin n'a pas été mis en cause. Un lot mis de côté et analysé, cela ne veut pas dire que le vaccin, dans sa totalité, a des défauts. Mais les anti-vaccins radicaux se jettent dessus, en font leur miel, détournant la réalité des faits.
Le vaccin AstraZeneca fait toujours l'objet de beaucoup d'intox.
Bah oui, malgré des études rassurantes sur son efficacité, la mauvaise réputation demeure. Exemple hier, ici, nous évoquions ces doses que la France allait envoyer à la République tchèque. Ce sera du vaccin AstraZeneca. Certains y voient alors l'occasion pour les autorités françaises de se défaire d'un vaccin défectueux. C'est pas vraiment le but initial. Donc, prudence avec la rumeur, ça peut vite s'emballer.
Merci beaucoup Jean-Mathieu Pernin. Michel Simès, vous êtes avec nous et dans quelques instants, vous vous intéressez à ces jeux dangereux qui sont pratiqués dans certaines cours de récréation.
Oui, avec des choses assez affolantes, vous allez voir.
A tout de suite, Michel.
RTL Matin, ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
Il est 8h18, rebonjour Michel.
Rebonjour.
On s'inquiète régulièrement des jeux dangereux pratiqués dans les écoles, collèges, lycées. Des jeux qui peuvent conduire à des accidents tout à fait dramatiques. Mais vous avez eu vent d'un autre type de jeu qui a failli coûter à la vie d'un enfant de 10 ans.
Oui, ça s'est passé dans une école UP de la région parisienne. Quelques élèves s'amusent avec un nouveau jeu qui consiste à se foncer dessus les bras en l'air ou, quand un enfant passe à côté d'eux, à croiser les bras et à se le balancer entre eux façon punching ball. L'enfant ballotté entre deux ou trois gamins finit en général par tomber. Se bousculer, on l'a tous fait, mais là c'est comme une balle qui passerait d'un enfant à l'autre rapidement et violemment. Et souvent, il y a le coup du lapin, surtout quand on est bousculé par derrière. Alors ce jeu est stupide, mais dans la grande majorité des cas, l'enfant balloté se relève plus vexé que blessé.
Dans la grande majorité des cas, mais pas dans celui de ce petit garçon dont vous nous parlez.
Oui, nous l'appellerons Pierre, un petit garçon de 10 ans, un petit garçon un peu frêle, gentil, pas très costaud et apprécié par ses camarades, mais une bonne cible pour ceux qui s'amusent à ce genre de jeu. Ce matin-là, dans la cour de l'école, Pierre est bousculé violemment et finit par tomber. Pas par terre, mais sur une barrière en métal, c'est le coup qui touche le premier. Il se relève, retourne en classe. Le soir, il dit à sa mère qu'il a un peu mal au cou, sans plus. Quelques jours après, de nouveau bousculé, là c'est le coup du lapin. Plusieurs jours plus tard, en classe, Pierre a du mal à trouver ses mots. Les petits copains rigolent, la maîtresse aussi, en lui disant « Mais qu'est-ce qui t'arrive Pierre? Tu bugs ?» Il va boire un peu d'eau et revient en parlant normalement.
Et puis survient en fait une paralysie de la moitié du visage.
Et là, la prise en charge médicale commence et après quelques errances et un diagnostic de migraine, l'IRM aboutit à un diagnostic rarissime chez l'enfant, un accident vasculaire cérébral. En tombant sur la barrière, Pierre a fait une dissection de l'artère carotide, la principale artère du cou. Les feuillets de la paroi de l'artère s'étaient ouverts comme un livre, le sang s'y était engouffré et un caillot s'était formé. Progressivement, des petits morceaux s'étaient détachés pour atteindre le cerveau.
Comment va-t-il aujourd'hui ?
Alors heureusement, Pierre s'en est sorti sans séquelles, grâce à une prise en charge en urgence et plusieurs jours d'hospitalisation. Pierre est aujourd'hui sous anticoagulant, n'a pas le droit de jouer avec ses copains dans la cour et est bien évidemment surprotégé. Il s'en sort bien car cette histoire aurait pu très mal se terminer. Les parents de Pierre ont fait preuve de pédagogie et d'intelligence. Ils ont juste demandé à l'école de faire une communication auprès des enfants et des enseignants, ce qui a été fait. Oui. Les enfants et leurs parents ont bien sûr été convoqués. Tout le monde a bien compris le message. Un message, espérons-le, que tous les parents vont maintenant faire passer à leurs enfants.
Merci beaucoup Michel Simès, à demain matin sur RTL. Dans un instant, c'est l'avocate de la famille de Samuel Paty, maître Virginie Leroy, qui sera avec nous. Elle réagira pour la première fois après les aveux de la collégienne qui reconnaît avoir menti dans ce dossier dramatique. Il est 8h21.
RTL Matin.
Avec Yves Calvi.
RTL Matin, Yves Calvi.
Il est 8h24. Bonjour maître Virginie Leroy.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin et de prendre la parole. Vous représentez la famille de Samuel Paty. Dois-je rappeler qu'il s'agit de l'enseignant décapité à la sortie de son établissement scolaire en octobre dernier? Comment avez-vous accueilli, maître, les récents aveux de la collégienne qui vient de reconnaître un mensonge éhonté dans l'affaire qui a coûté la vie de Samuel Paty?
Alors, je l'ai accueilli sans surprise parce que la situation de la jeune fille était intenable. Tous les éléments dans le dossier prouvent très très tôt qu'elle a menti. Son absence au cours était établie dès le départ, a été très vite confirmée par les collégiens. Donc le positionnement de cette jeune fille qui s'est enfermée dans son mensonge peut-être, en tout état de cause, c'était plus tenable. Ce n'était sur la longueur, ça ne pouvait pas durer. Donc j'étais pas surprise de ce revirement. Maintenant, ce qui entoure les explications du dit revirement me laisse un petit peu sur ma réserve.
C'est-à-dire, pouvez-vous être plus précise ?
C'est-à-dire que la jeune fille explique qu'elle ne voulait pas décevoir son père et elle explique aussi qu'elle finalement s'est trouvée un peu malgré elle le porte-parole de sa classe. Oui. Là, je suis très circonspecte parce que le porte-parole de quoi ? D'un mensonge ? De faits qui ne sont jamais arrivés ? Donc cette explication ne me satisfait pas. Elle me met un peu en colère, je dois dire. Parce que les faits sont graves, ils sont dramatiques. Et si véritablement on vient à des aveux, comme toute la presse l'a titré, si on vient pour dire « Allez, je baisse les armes, j'admets enfin que j'ai menti », on assume. Et pour moi, ce sont des aveux qui ne sont pas assumés. Et on essaye encore de se retrancher sur une explication ou une autre. Et ça, c'est pas acceptable pour la famille de Samuel Paty.
Il semble évident que la jeune fille a elle-même été manipulée aussi par son père, ou au moins le père a utilisé les dires de sa fille.
Qu'est-ce que... Oui, alors, vous voyez, il y a quand même une curiosité, c'est que dans le même temps, la jeune fille dit « Bon, ok, j'ai menti, mais je ne voulais pas décevoir mon père », et de manière assez opportune, finalement, le père dit « Bon, attendez, moi aussi, je reviens sur mes déclarations, et j'ai cru ma fille, mince. Non, c'est pas vrai. » La jeune fille s'est établie, n'était pas là le mardi 7 octobre au cours. Le billet d'absence à ce cours est signé par la mère pour maladie. Donc, premier point, les parents étaient informés qu'elle n'était pas en cours. Deuxième point, cette fameuse décision d'exclusion est notifiée aux parents le mercredi. Pourquoi ? Non pas par rapport au cours de Samuel Paty, ça n'a strictement rien à voir. Cette exclusion est notifiée parce que les parents avaient rendez-vous avec la principale, le fameux mercredi, pour des problèmes de comportement et d'absentéisme. Ils ne se présentent pas à la convocation de la principale, qui décide donc de notifier cette exclusion. Elle le notifie par message SMS et par courrier. Dans sa notification, les raisons de la sanction qui sont prises contre cette jeune fille sont explicitées. Le lendemain, le jeudi, quand le père de famille vient avec l'agitateur radical au collège, tout feu, tout flamme, pour en découdre avec la principale, elle lui rappelle les motifs de l'exclusion. Donc venir dire aujourd'hui que, désolé, j'ai cru le mensonge de ma fille, c'est très léger, c'est très léger.
Vous nous dites que ça ne tient pas la route. Alors on est parfois effaré aussi en ce moment par la facilité avec laquelle la propagande islamiste se répand dans notre pays. Ça n'épargne pas les institutions comme celle de Sciences Po Grenoble. La famille Paty que vous représentez s'en inquiète-t-elle ?
Oui, alors évidemment qu'elle s'en inquiète, ça touche tout le monde et on est toujours effaré face à ça. Et elle en premier plan, bien évidemment. Il y a quelque chose quand même qu'il faut relever et dont tout le monde doit avoir conscience. Le drame de Samuel Paty a touché tout le monde et il faut que ça continue. Et il faut qu'on ait ça en tête. On ne peut plus tolérer que des drames arrivent pour des cabales sur Internet, des mensonges non vérifiés. Il y a beaucoup de responsabilités dans le dossier de Samuel Paty. La mort de Samuel Paty a été causée en premier lieu par un mensonge, mais qui a été relayé de manière totalement irresponsable. Je prends un exemple. Ça a été relayé sur les réseaux sociaux par des institutions qui sont écoutées. J'en citerai une, la Grande Mosquée de Pantin, qui a relayé la vidéo tournée par le père de famille sans aucune vérification. Un coup de fil au collège aurait été très simple.
Et ça n'a pas été fait.
Et ça n'a pas été fait. C'est un exemple parmi d'autres.
Cela amène une question centrale. L'État, selon vous, a-t-il failli dans la protection de Samuel Paty une fois que l'affaire était lancée ? Pas de surveillance ni de protection alors qu'il était effectivement déjà menacé.
Oui, alors je voyais hier que les deux professeurs bénéficient d'une protection policière.
La Sciences Po. Hein.
Voilà, exactement. Ah ben, c'est très bien. Enfin, on ne prend plus ce genre de cas à la légère. Ça n'a pas été le cas pour Samuel Paty. Moi, je le déplore. Je pense que Samuel Paty n'aurait pas dû mourir. Il est mort.
Un ministre vient de s'inquiéter de la montée de l'islamo-gauchisme dans le monde universitaire et intellectuel. Tout le monde lui est tombé dessus, d'ailleurs. Est-ce que c'est une question que vous trouvez légitime de vous poser et de nous poser ?
Moi, je ne suis pas sur ce registre de l'islamo-gauchisme. Je suis sur le registre de l'islamisme radical. J'interviens dans beaucoup de dossiers de terrorisme. Ce qui m'importe, moi, ce sont ces mécanismes insidieux de radicalisation, de propagande qui se passent partout et qui se passent en France.
Auxquels on ne répond pas ?
Auxquels on ne répond pas assez. Au sortir des attentats du Bataclan, il y avait eu des annonces gouvernementales qui étaient formidables, qu'on ne pouvait que saluer, sur l'information dans les collèges, dans les lycées, sur le décryptage des mécanismes de propagande. Je pense que ces actions, elles doivent être menées prioritairement. Parce qu'on le sait, et d'ailleurs, le dossier de Samuel Paty le démontre, la moyenne d'âge du dossier, c'est inédit. C'est inédit. On a une moyenne d'âge de mis en examen de dossiers qui donne le vertige. Donc oui, il faut renforcer cette information, cette éducation et cette prévention sur ces mécanismes de radicalisation qui sont d'autant plus insidieux qu'ils passent, on le sait, très massivement par les réseaux sociaux.
La famille que vous représentez s'est caractérisée jusqu'ici par une grande pudeur et une discrétion remarquable. Ouais. Quelle est leur attente aujourd'hui ?
Leur attente, c'est celle de toutes les victimes. La justice, tout simplement. Il y a absolument, et vous le dites, c'est remarquable. Cette famille est remarquable, je tiens à le dire. Cette famille est d'une humanité, d'une décence, d'une dignité, rarement vue auparavant. Il n'y a aucun sentiment de haine, aucun sentiment de vengeance. En revanche, il y a, première chose, une attente de réponse. Parce qu'on ne peut pas laisser cette mort tragique, brutale, horrible, sans réponse. Il y a un vrai devoir de vérité et de transparence à faire. Et moi, c'est ce que j'attends. Je l'attends dans le dossier pénal, mais je l'attends aussi des institutions étatiques. Cette transparence et ce devoir de vérité, ça ne doit plus se produire. Aujourd'hui, si on a juste une chose à tirer de ça, et là, pour en avoir discuté avec la famille, c'est également une de ses attentes, c'est que Samuel ne soit pas mort pour rien.
Devoir de transparence et de vérité demandé par la famille de Samuel Paty. Merci beaucoup, Maître Virginie Leroy. Je rappelle que vous représentez donc la famille Paty. Et merci d'avoir pris la parole ce matin sur l'antenne d'RTL.
Merci à vous.
Dans un instant, notre météo à 7 jours avec Louis Baudin.
RTL. RTL Matin.
Bonjour, c'est Bernard Luz.
Laissez-vous tenter.
Il y a 5 ans, Olivier Bourdeau signait des débuts fracassants avec En attendant Bojangles, un best-seller mondial, Grand Prix RTL Lire. Il revient avec Florida, un roman radicalement différent, l'histoire d'une mini-miss de beauté qui, une fois adulte, se vengera d'une mère abusive. Un conte cruel et très contemporain sur le culte du corps et l'enfance volée. Olivier Bourdeau, invité exceptionnel de Laissez-vous tenter, c'est à 9h.
RTL Matin.
Cher Louis Baudin,
oui.
La météo à 7 jours, nous sommes tout oui.
Ah, il va se passer encore beaucoup de choses.
Ah oui,
c'est... c'est agité ce mois de mars, hein. C'est souvent le cas, mais alors là, ça l'est. On l'a dit aujourd'hui, c'est un peu une journée intermédiaire, un peu plus de soleil dans le sud, un petit peu plus de nuages dans le nord, mais encore globalement un temps sec et plutôt ensoleillé. Alors demain, ça s'inverse totalement. C'est-à-dire que dans la moitié sud, on va retrouver un temps sec, très ensoleillé, et puis à l'inverse, au nord de la Loire et notamment près de la Manche, là, on va connaître une dégradation un peu plus sérieuse, de plus en plus de nuages et le retour de la pluie avant la fin de la journée. Et ça, ça annonce notre petite tempête de jeudi.
Ah
bon, c'est une petite. Au début, je croyais que ça allait tomber. En fait, elle fait un peu pchit. Mais quand même, il y aura beaucoup de vent sur la moitié nord. Ça va ventiler un petit peu. C'est bien pour la pollution. Avec des rafales qui approcheront les 80 voire 100 km/h sur le nord Pas-de-Calais. Et évidemment, lié à cette perturbation, des nuages, de la pluie. Cette pluie se transformera en neige en arrivant sur les reliefs de l'Est. Hein, cette neige qui a fondu. Ben là, de nouveau, on attend un épisode assez conséquent sur les Alpes, notamment dans la nuit de jeudi à vendredi. Vendredi, on retrouvera des averses dans la plupart des régions. Le tout avec des températures de saison autour de 10 degrés dans la moitié nord, 15 degrés dans le sud.
Oui.
Pourquoi je dis ça? Parce qu'après, ça va repartir à la baisse.
Ah.
Samedi, encore des averses avec des températures qui commenceront à baisser. Une baisse qui sera plus sérieuse dimanche, où on aura peut-être un temps un peu plus sec dans l'ouest, mais encore des averses dans l'est, sous forme de pluie ou de neige en montagne. Et de nouveau, une baisse des températures. Et la semaine prochaine, si les premières prévisions sont bonnes,
oui.
Eh bien, c'est de nouveau de l'air froid qui pourrait bien revenir sur la France, notamment sur les régions de l'est, avec des gelées, avec des températures en dessous des moyennes de saison. Donc, comme je vous le dis, ce mois de mars, ça nous réserve encore quelques surprises.
Bon, donc le froid est toujours présent. On ne peut toujours pas aller skier non plus, alors qu'il y a de la neige sous nos montagnes. J'ai voulu demander un pass pour aller sur les téléphériques à Jérôme Salomon, mais apparemment j'ai senti qu'il n'était pas vraiment d'accord. Alors vous êtes un certain nombre à vous interroger de nous voir fleuris ce matin, de voir un Louis Baudin magnifique au milieu de ses jonquilles. Je m'explique. RTL soutient l'opération Une jonquille contre le cancer, et pour aider l'Institut Curie dans sa bataille contre le cancer, eh bien vous pouvez faire un don si vous le souhaitez, de 5 euros en envoyant le mot espoir, ESPOIR, bien entendu par SMS au 92 002, en envoyant le mot espoir par SMS au 92 002 ou sur le site internet unejonquillepourcurie.fr. Merci de votre compréhension.
RTL, vous êtes comme ça.
Prenons un peu de hauteur dans tous les sens du terme ce matin, dans Vous êtes comme ça. Avec une vieille tradition du nord du pays, la colombophilie. Ils sont environ 10 000 passionnés, dont la moitié dans les Hauts-de-France, à élever des pigeons voyageurs pour en faire des athlètes capables de parcourir des centaines de kilomètres avec des concours régulièrement organisés. Bonjour Franck Hanson.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Vous avez rencontré un jeune champion à Marconne dans le Pas-de-Calais. Ces pigeons lui ont déjà rapporté plusieurs récompenses.
Ces pigeonniers sont installés dans le toit de la maison familiale. À 24 ans, Tanguy Gervois est déjà champion de France, toute catégorie.
Donc là en haut, c'est tous mes vieux qui voyagent. Après là, c'est les jeunes de l'année.
C'est son grand-père qui lui a transmis le virus de la colombophilie. Il possède plus de 200 oiseaux, des champions nichés dans le grenier.
Champion, ouais, c'est sûr. Ouais. Il y en a, ils peuvent voler toute la France sur une journée.
Et ils reviennent ici aux pigeonniers?
Ouais, ils reviennent chez eux. C'est tous les vieux mâles qui font les concours, quoi. C'est les pigeons importants. C'est pas comme les pigeons qu'on voit dans les villes, hein. Ça n'a rien à voir.
Ce jeune charcutier qui travaille dans la boutique de son père à Hesdin est un vrai passionné. Dès qu'il peut, toujours aux petits soins pour ses pigeons. Certains ont même des noms.
Souvent les meilleurs, ils ont des noms. Ouais. Un qui est là, il s'appelle Route 66. Après j'ai Olympique d'Annie, j'ai Black Jarnac. Il y en a qui ont déjà été jusqu'à Cahors et tout ça. Ça fait 700 km à peu près à Vaudoise.
Comme pour des coureurs de fond, Tanguy entraîne ses pigeons sur plusieurs distances. Il fait attention à la qualité de leurs ailes. Avec son club, le Ramier, il participe à des concours. Emmenés en camion, relâchés plus ou moins loin, les volatiles reviennent à la maison grâce à une sorte de sixième sens.
Disons qu'il n'y a encore rien de prouvé, mais ils ont un sens de l'orientation, c'est dans leur tête. C'est un peu comme les oiseaux migrateurs qui savent leur chemin, qui savent leur route. Les pigeons, c'est un peu pareil, mais un peu plus poussé. Ils ne savent pas où on les lâche, ils reviennent chez eux. C'est ça qui est incroyable. Ouais. Ils peuvent avoir un accident avec des rapaces ou tout ça, ça c'est un risque aussi.
Le jeune coulonneux, comme on dit ici, sélectionne soigneusement la nourriture à base de graines et les récompenses lors de courses permettent parfois de limiter les frais.
Mais dites-moi, ils sont nombreux ces jeunes à faire voler les pigeons voyageurs ?
Alors honnêtement, ils ne sont pas majoritaires. Cette tradition lancée par les mineurs belges dans les corons n'a pas forcément une image très moderne, mais la colombophilie recrute toujours parmi les jeunes qui se distinguent. Une fierté pour le président de la Fédération nationale, Jean-Jacques Dupuis.
Je suis, je peux vous l'avouer, un président heureux et fier. On a beaucoup de jeunes qui partagent notre passion. Quand je regarde le championnat de France, toute catégorie 2020, la moyenne d'âge des quatre premiers, c'est 27 ans. Il ne faut pas avoir beaucoup de pigeons pour s'amuser, entre guillemets, puisque en fait on s'amuse hein, quand on joue aux pigeons. Et en plus, c'est un loisir qui se pratique en famille. La majorité des colombophiles ont quand même plus de 50 ans. Comme on a pas mal de jeunes qui viennent vers nous, je suis très optimiste pour l'avenir. Le sport colombophile, je dis toujours, c'est la magie, c'est le mystère.
Et rentre ici.
Dans son village de Marconne, Tanguy Gervois s'émerveille toujours de voir ses pigeonneaux qui commencent à voler.
Donc ici, on est... Il y a des pigeons qui volent partout, là.
Ici, c'est des jeunes de 2-3 jours. Mes pigeons, je les connais, ouais. Sans regarder les numéros, ouais. Bon, ils ont tous un truc différent. Hein. Le pigeon voyageur, il est plus développé, plus costaud.
Il y a des pigeons qui valent quand même des fortunes, hein. On sait que...
Ouais, il y en a eu dernièrement en Belgique qui ont été vendus très cher, ouais. Plus d'un million d'euros en Belgique, quoi.
Et toutes ces récompenses ornent désormais le salon familial.
C'est les coupes que j'ai gagnées, ouais, depuis les débuts. Il n'y a que celle de cette année que j'ai pas encore, forcément, comme il n'y a pas encore de remise des prix.
Ça décore la maison.
Ouais, c'est sûr, ouais.
Les compétitions colombophiles doivent reprendre au printemps. Tanguy Gervois, désormais bien connu au-delà de son village, devrait aligner ses athlètes comme Route 66, Olympique d'Annie et sûrement de nouveaux talents volants.
Merci beaucoup Franck Hanson pour ce joli portrait de Coulonneux. Hein, vous êtes comme ça, retrouvé comme tous les autres d'ailleurs, sur le site rtl.fr et sur l'application RTL. Il est 8h41, cette alerte de l'agence France Presse qui vient de tomber à l'instant même. Une adolescente de 14 ans aurait été retrouvée morte, noyée, dans le département du Val-d'Oise. Donc, deux lycéens ont été interpellés. Nous y reviendrons avec notre point d'information et Jérôme Florin, bien entendu, à 9h.
RTL Matin, la face cachée de la Une.
Et ce matin, Isabelle Choquet, vous nous emmenez en Inde et en taxi.
Oui, en Inde, si vous montez dans un taxi, ce sera très certainement avec un chauffeur. Il n'y a quasiment pas de femmes dans la profession. D'ailleurs, il n'y a quasiment pas de femmes qui travaillent, tout simplement. Mais c'est en train de changer tout doucement grâce à Azad, une ONG qui forme les femmes des quartiers populaires pour qu'elles deviennent taxi drivers. J'ai lu ça ce matin dans Libé. Libé qui nous transporte dans la circulation chaotique du nord de New Delhi. Des klaxons qui hurlent, des motos à contresens, tout ça au milieu des vaches, toujours placides, c'est placide une vache, au volant d'une petite voiture bleue cabossée, Rina, 34 ans, sourire imperturbable. Les gens s'énervent, dit-elle, ils me crient dessus, ils me disent d'apprendre à conduire. C'est bien ce qu'elle fait, sans se décourager, mais il faut de la patience. L'apprentissage prend environ 9 mois, il faut convaincre les hommes aussi. Mon mari pensait qu'une femme ne pouvait pas conduire une voiture, raconte Om Kari. Aucune femme de notre famille n'avait jamais travaillé, sauf une qui était infirmière. Alors conduire un taxi, bien souvent ce qui force le destin c'est l'argent, un mari qui gagne mal sa vie, des enfants qui tombent malades. Om Kari, ça fait 10 ans maintenant qu'elle conduit son taxi, elle est aussi monitrice pour Azad, Liberté en hindi. De fait, la plupart des chauffeuses tombent le voile. Le chemin est d'autant plus long qu'il faut nager à contre-courant. Les indiennes qui travaillent sont de moins en moins nombreuses, 1 sur 5 environ. Elles sont victimes du chômage dans les secteurs industriels, victimes aussi du poids des traditions. Elles font des études, mais leur premier job, ça reste le ménage et les enfants. Azad prend donc le problème dans sa globalité avec des cours de conduite, mais aussi des cours d'anglais, des modules sur les droits des femmes. Nos apprentis viennent de milieux marginalisés, explique une responsable. On ne peut pas simplement leur offrir 3 mois de conduite et espérer qu'elles trouvent un travail derrière. D'autres formations font cela. Seulement 2% des femmes trouvent un emploi ensuite. Chez nous, 60 à 70% réussissent. Parmi elles, il y a Dipa. Elle avait 21 ans quand elle a décidé de se lancer dans l'aventure. Je n'étais jamais vraiment sortie de mon quartier, ni même montée sur un vélo, dit-elle, mais je voulais essayer. Son père refuse, par peur pour sa fille, mais aussi par crainte de ce que diront les voisins. Pendant les 7 mois de formation, il ne m'a pas parlé et il a même quitté la maison pendant quelques jours. Heureusement, Dipa a pu compter sur le soutien de sa mère. « J'ai toujours voulu travailler », explique Shakuntala, « mais à son âge, j'avais déjà 3 enfants ». Le père a finalement changé d'avis quand Dipa est revenu avec son premier salaire. Ah oui. 15 000 roupies environ et 170 euros, c'est le salaire maintien moyen.
Elle conduisait un taxi.
taxi, dernier cri.
Aujourd'hui, Dipa a 30 ans, elle est taxi de nuit et elle en est très très fière. Elle conduit doucement, calmement, clignotant pour tourner, presque pas de klaxon. À Delhi, c'est très reposant et plutôt rassurant pour les clients. Sur la route, les autres conducteurs me regardent bizarrement, dit-elle, mais c'est pas grave. Mon rêve, c'est que toutes les voitures soient conduites par des femmes. Dipa est une pionnière. Après elle, dans son quartier, une cinquantaine de jeunes femmes ont appris le métier, dont sa sœur cadette. Depuis 2008, Azad a formé en tout plus de 2500 femmes qu'elle emploie ensuite dans sa filiale commerciale baptisée Chaka. Alors elles sont chauffeuses particulières pour des familles, des entreprises. Et un comptoir a même ouvert il y a quelques mois à l'aéroport de New Delhi. Comptoir rose et turquoise avec le slogan « Femme au volant ». Et oui Yves,
formidable.
C'est un argument de vente à New Delhi. Les taxi-drivers de New Delhi, c'est un grand reportage à lire ce matin dans Libération.
Belle enquête, merci de nous avoir fait voyager Isabelle Choquet. À demain matin.
À demain.
Notre grand voyage à nous, ça sera celui du rire dans quelques instants avec Laurent Gérard.
RTL Matin avec Yves Calvi.
Il est vite.
Non,
on évoque des chansons.
Comme Cyril est là, on parle déjà de bouffe.
Voilà. Aussi, non, il y a nourriture, gastronomie et chansons.
Et chansons.
Voilà. Ayant marqué notre enfance.
Voilà, exactement.
Bonjour Laurent Gérard.
Bonjour Yves.
Bonjour Mademoiselle Gérard.
Bonjour Monsieur Calvi. Bonjour tout le monde.
Bonjour.
Bonjour Nicolas Sarkozy. Oui.
Elle n'est pas là, celle qui est toujours habillée en rouge, comme Anne Romanoff. Sauf qu'elle fait bling bling quand elle marche avec toutes ses breloques autour du cou. Mais c'est. Enfin. Celle qui donne les audiences de la télé.
Mais si elle est là, vous voulez parler d'Isabelle Morini-Bosque, elle est là.
Oui, oui.
C'est bonjour.
Ça. On l'appelle le manège à bijoux dans le métier. C'était pour qu'elle redonne l'audience de mon passage au JT de TF1.
Eh bien, on va lui demander.
Oh ben 7 millions de téléspectateurs, moi si je peux aider. Hein.
Eh bien voilà, 7 millions.
Eh bien voilà, 7 millions. Il paraît que comme quoi que j'ai écrabouillé la concurrence... Laminé, le petit prétentieux Barthès qui est toujours étriqué dans ses vestes de couples. Broyé Hanouna qui met des nouilles dans son slip. J'ai même atomisé Roland. Alors,
Roland,
vous dire.
C'est qui Roland?
Oui, Roland. Roland Marcy, le patron du Mistral dans Plus belle la vie.
Ah.
Est-ce que vous avez vu, je pense que je parle en présence d'Isabelle Morini, parce que vous avez vu les commentaires de Télé Z?
Non.
Un score stratosphérique pour l'ancien président.
Ouais.
Hein, et Télé 7 jours. Sarkozy fait toujours recette. Et je ne dis pas ça pour me vanter. C'est le pas bon le genre.
Non, pas du tout. Enfin, c'est surtout pour vous l'occasion de vous défendre après avoir été condamné à 3 ans de prison. Décision pour laquelle vous avez d'ailleurs fait appel.
Non, mais attendez. Je suis venu vous voir pour remercier les juges.
Vous ? Remercier les juges.
Ils m'ont fait une publicité du tonnerre.
D'accord.
Les titres des journaux le lendemain, je vous le dis. Sarkozy, victime de l'injustice politique. Sarkozy, condamné sans l'ombre d'une preuve. Sarkozy, un condamné si peu condamnable. Et je vous annonce que mon nouvel attaché de presse, ce sera le juge tourner. Hein.
Vous ne vous réjouissez tout de même pas de cette condamnation?
Non, vous savez, je n'ai pas l'habitude de me réjouir trop tôt. J'attends 15 jours pour ça.
Pourquoi 15 jours?
Parce que dans 15 jours, il y a mon procès Big Malion.
Ah oui, c'est vrai.
Avec un peu de chance, je vais coper 30 ans de prison pour des histoires de petits fours qu'on aurait soi-disant payés au black. Hein. Si les magistrats voulaient que je sois tout en haut de l'affiche, ils s'y prendraient pas autrement. Dites, c'est bien le syndicat de la magistrature qui avait mis ma tête sur le mur des cons?
Oui. Oui.
Eh bien, c'est celui qui dit qui y est.
Entre 50 000 et 80 000 tests salivaires par semaine doivent être pratiqués à l'école. Les professeurs ont pour mission de superviser l'opération, voire même, parfois, de faire eux-mêmes passer le test aux élèves.
Oh, madame Metterdertel, j'ai trop le seum.
Bonjour, MC Bâtard, mais qu'est-ce qui vous arrive?
Vas-y, je suis en bad. Moi, ça fait des années que je pratique le test salivaire. Moi, à chaque fois, je me suis fait coller en garde à vue. Alors que maintenant, c'est carrément le ministre, Jean-Michel Blanquette, qui demande son livre. Vas-y, c'est pas juste.
Alors, comme ça, vous pratiquiez le test salivaire.
Ouais. Moi, j'ai toujours craché sur Madame Poupard, ma prof de maths. Vas-y, Poupard, nique ta rame avec tes auditions.
Oui, mais alors là, il ne s'agit pas du tout de ça, MC Bâtard. Hein. Ce dont je parle, c'est d'un test anti-Covid. Voilà. Et c'est Madame Poupard qui le pratiquera sur vous.
Quoi? Madame Poupard va me cracher dessus.
Non.
Mais non.
Ça va pas dans ta tête. Oh. Moi, je portais plainte à la Ligue des droits de l'homme. Comme quoi que je suis discriminé pour la police de mathématiques.
Mais vous ne comprenez rien du tout, rien. Hein, M. Bata. Dites-moi, vu que vous avez 35 ans maintenant, vous êtes en quelle classe exactement?
Ouais, je suis en CAP de métallurgie.
Ah oui?
Comme ça, après, je pourrais faire comme Booba.
Oui.
Rapper dans des tubes en fer. Tubes en fer.
Bonjour. Ah, bonjour Alain Souchon. Oui. Ça vous intéresse les tests salivaires à l'école?
Oui, mais c'est intéressant. Oui. Là, je plains les instituts, des gens qui devaient se former aux arts martiaux pour éviter les claques des gamins. Maintenant, on les prend pour des laborantins. C'est bien.
Bon, certains d'entre eux se plaignent d'ailleurs de cette nouvelle mesure qui augmente la difficulté de leurs conditions de travail déjà très pénibles.
Oui, mais j'ai une solution pour eux. C'est tout simple. Il faut augmenter les heures de cours de musique à l'école. Sympa, la musique.
Et quel est le rapport?
Oui. Ben, on donne à chaque élève une flûte à bec. À la fin du cours, on récolte toute la bave qu'il y a dedans. Comme ça, on joint l'utile à l'agréable. C'est sympa, flûte à bec.
Le maire adjoint de Levallois-Perret a porté plainte contre Patrick Balkany car il aurait diffusé un photomontage pornographique représentant la maire de Levallois et son adjoint.
Rien à foutre.
Bonjour Patrick Balkany, ça ne vous inquiète pas cette nouvelle plainte?
Mais enfin, tout le monde envoie des photomontages porno pour rigoler. Bon. Tiens, pas plus tard que ce matin, Yves Calvi m'a envoyé une photomontage de Cyril Lignac en train de faire l'amour à une religieuse au chocolat. Je vais pas porter plainte.
Donc vous ne regrettez pas votre geste?
Pas du tout, surtout j'ai autre chose à faire. J'ai plein de projets en ce moment.
Aïe, et oui, lesquels?
Je vous ai parlé de mes restaurants pizza pute,
oui, oui.
Hippopota pute et
oui.
Courte pute.
Oui.
Où on peut acheter de la bouffe et des putes.
Oui, tout à fait, on s'en souvient. Oui.
Tous mes clients me disent qu'avec, qu'avec leur pute, ils aiment bien fumer un bon joint. Du coup, je vais lancer des magasins de jardinage. Ils pourront à la fois acheter des putes et du matériel pour faire pousser de la beuh.
Bah, c'est pas bête, ça va s'appeler comment?
Attention.
Jardi pute. J'ai même trouvé un slogan. Grâce à Jardi pute, je plane pendant la turlute. Je fais une offre de lancement.
C'est pas possible.
Pour une pute achetée, un sachet de graines à planter offert. Ça vous intéresse?
Ah bah non, merci, on va enchaîner plutôt.
Enchaînons, oui.
Enchaînons et tournons maintenant une petite page de publicité.
Ah.
Vous l'avez reconnu?
Oh oui, tout de suite.
Bonjour, c'est Benjamin Castaldi, l'ancien animateur qui a écrit un bouquin sur sa mamie cocu et son papy cutard. Vu que mon bouquin se vend bien, j'ai gagné plein de sous. Et j'ai pu m'acheter plein de double cheeseburger avec supplément maillot. Du coup, j'ai pris 10 kilos en 15 jours. Mais avec comme j'aime, j'ai calculé mon IMC. L'IMC, c'est l'indice de masse corporelle.
Mais on s'en fout de l'IMC!
Ah, bonjour Gérard, ça va bien?
C'est mieux si t'arrêtais de raconter des conneries. Dans la vie, il faut se faire plaisir. Et quand tu te fais plaisir, bah tu grossis, c'est comme ça.
Bah justement, avec comme j'aime, on peut se faire plaisir en perdant du poids. Ça marche vraiment. Essayez-le gratuitement pendant une semaine.
Mais je m'en fous, je te dis! Et puis arrête de raconter partout que ta grand-mère était cocu. C'est une grande dame, ta grand-mère. Hein, elle manque beaucoup au cinéma français.
Peut-être, mais elle était cocu. Parce que mon papy, c'est mon frère qui s'appelait Montant. Hein. Des gonzesses, il en a monté plus d'une.
Mais je sais, j'ai joué avec lui sur le tournage de Manon des Sources. Il n'y avait pas que des sources, il y avait aussi des fontaines. Mais c'est pas une raison pour salir la mémoire à tes grands-parents. Et arrête de menacer avec ton bâton.
Mais c'est pas un bâton, c'est une perche selfie. C'est pour tourner des spots de régime comme j'aime, votre programme minceur.
Mais arrête avec ça, je te dis.
Éteins ton téléphone et viens bouffer. Tiens, regarde, il y a M. Lignac qui a ramené des trucs. Oh,
j'ai faim, nom de Dieu.
Merci pour cette rencontre entre Benjamin et Gérard.
Allez bien que ça.
On l'attendait depuis un certain temps pour tout dire.
Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il
alors, aujourd'hui, ce n'est pas exactement dans ce que vous préférez, Gérard Depardieu.
Oh.
Mais si, va nous donner une recette de choucal.
Oh, mais c'est quoi ça?
Kale.
Moi, je prononce à la française.
C'est pour les cantines de Lyon.
Oui, c'est exactement ça. Si vous voulez faire shit, vous appelez ça du chou kale.
Oui. Voilà.
J'ai même connu des personnes qui parlaient de chou calé. Mais bon.
En tout cas, ça fait péter.
À n'en pas douter. Et puis, assaisonné par Lignac, c'est tout de suite payé.
Ah, voilà.
C'est
mieux.
Voilà. On vous retrouve sur le site RTL.fr et demain matin sur notre antenne avec toute l'équipe.
À demain.
Et à tout de suite, cher Cyril.
À tout de suite.
RTL Matin. Yves Calvi.
Et aujourd'hui, cher Cyril, nous répondons à une question d'Edith qui vit à Vaucourt, en Seine-Saint-Denis, et qui vous demande comment cuisiner le chou calé. Déjà, à quoi ça ressemble, Cyril, ce chou?
Je pourrais dire, c'est une tige verte, un peu comme un brocoli, en fait, c'est des tiges, sauf qu'il n'y a pas des fleurs au bout, c'est vraiment des feuilles. Alors, c'est assez rudin, c'est-à-dire que c'est vrai que quand on le mange, ça croque, c'est un légume ancien, c'est une variété ancienne de chou, qui est réapparu il n'y a pas longtemps.
Oui, qui est devenu à la mode depuis plusieurs années.
Et en fait, c'est marrant parce qu'on le mangeait vraiment ici par les Romains et en France. Ensuite, on l'a complètement abandonné. Il est parti aux États-Unis. Voilà. Et c'est aux États-Unis qu'il est revenu à la mode.
En Californie, à New York.
Voilà, plein de vitamines.
Il n'est pas un mannequin qui ne mange pas son bol de chou tous les jours.
Et donc, plein de vitamines A, c'est délicieux. C'est la pleine saison, janvier, février, mars. Oui. Et donc, comme c'était à la mode aux États-Unis, ben bien, c'est revenu chez nous. Donc, j'ai fait une petite recette.
Allez-y.
Pour se faire plaisir, quand on veut un petit peu manger léger.
Alors, lamelle très fine.
Alors très, très fin, parce que ça croque un peu. Oui. Très fin. Assaisonné de vinaigrette avec de l'huile d'olive, du citron, un peu de jus d'orange. On y découpe des petits morceaux d'avocat. On peut aussi ajouter des petites carottes râpées en morceaux. Et puis, on met des épices et des agrumes. Donc, les carottes, on les cuit un petit peu au four pour avoir le goût un peu épicé. Mmh. Ensuite, on les dépose comme ça dans un cuit cru. On peut rajouter un œuf mollet.
Voilà.
Et comme ça, on a un repas complet, léger, qui fait du bien. C'est la recette pour vous, Yves, pour lundi prochain.
Ah,
pour vous mettre en forme pour la semaine, un petit peu de menthe ciselée et des noisettes quand même.
Oh, c'est magnifique. Et tout ça est à retrouver sur le site RTL.fr. Merci beaucoup, cher Cyril. 9h01, le point de l'actualité avec Jérôme Florin.
RTL Matin, Yves Calvi.
La mort d'une adolescente dans le Val d'Oise à Argenteuil. Elle a été poussée à l'eau hier soir dans la Seine. Elle avait 14 ans. Vous avez des précisions, Alice Moreno?
Oui, elle a été frappée par deux de ses camarades de lycée hier en fin d'après-midi. Un garçon et une fille de 15 ans qui s'en sont pris à elle. Après les coups, ils l'ont poussée dans le fleuve à hauteur du viaduc de Gennevilliers à Argenteuil. Les deux suspects se sont ensuite réfugiés chez un camarade. Mais pris de remords, ils ont avoué à un de leurs parents qui a alerté la police. La mère de la victime avait entre-temps signalé la disparition de sa fille. Les enquêteurs ont retrouvé le corps sans vie de la victime, une adolescente de 14 ans, sur une berge de la Seine, non loin du lieu où elle aurait été poussée. Sa mère assure aujourd'hui qu'elle était victime de harcèlement dans son établissement scolaire. Les deux auteurs sont actuellement en garde à vue.
Alice Moreno, une nouvelle bagarre entre bandes rivales hier soir à Champigny-sur-Marne, dans le Val-de-Marne. Deux adolescents sont grièvement blessés. Quatre mineurs ont été placés en garde à vue. Et puis le confinement en Ile-de-France n'est pas d'actualité pour Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé, invité ce matin de RTL. Dans la région, les hôpitaux sont sous tension. Il faut déprogrammer 40% des opérations. Jérôme Salomon qui précise par ailleurs que l'étau dans les EHPAD sera desserré dans les jours qui viennent grâce aux effets de la vaccination.
Il est 9h02, merci.